18h-20h,
votre grand journal du soir,
Nathalie Lévy.
Bonsoir à toutes et bonsoir à tous, place à votre grand journal du soir sur Europe 1. À la une ce soir, cette information qu'Europe 1 vous donnait dès ce matin, deux nouveaux entrants dans ce gouvernement, Jean-Paul Delevoye et Jean-Baptiste Djebbari. Qui sont-ils et à quel poste? Tous les détails de Michaël Dermont, notre éditorialiste, dans un petit instant. 18h20, mon invité d'actu, des polluants dans l'organisme de tous les Français. Les enfants sont les plus touchés, on verra pourquoi. Les grandes voix d'Europe 1 comme tous les soirs à 18h30. Les annonces d'Agnès Buzyn pour calmer les urgences suffiront-elles? Et puis à 19h10, rendez-vous politique, Nicolas Bay, député européen Rassemblement National, répondra à David Doucan. Bonsoir Anissa.
Bonsoir Nathalie, bonsoir à tous.
C'est votre grand journal du soir. Vous réagissez en temps réel sur les réseaux sociaux, hashtag Europe 1.
Et vous pouvez également réagir en direct grâce au standard d'Europe 1. On vous attend, vous pouvez interpeller les grandes voix. Ça se passe dès maintenant au 39-21, 50 centimes la minute.
Et on accueille Sébastien Krebs. Bonsoir Sébastien.
Bonsoir Nathalie, bonsoir à tous.
L'information, c'est avec vous et c'est en direct.
Vous écoutez Europe 1, il est 18h.
Bonne façon de regarder le sujet, c'est de dépiauter un par un les endroits où nous avons failli, afin que un par un nous puissions les corriger.
Le Premier ministre Édouard Philippe qui fait son mea culpa et promet 5 millions d'euros et 1000 nouvelles places d'hébergement pour protéger les femmes à l'ouverture du Grenelle des violences conjugales et la possibilité aussi de déposer plainte à l'hôpital. Loin d'être suffisant, répondent ce soir les associations de victimes.
Ce sera l'homme de la réforme des retraites. Jean-Paul Delevoye entre au gouvernement comme haut commissaire. Europe 1 vous l'annonçait dès ce matin. Autre arrivée, celle du jeune député macroniste Jean-Baptiste Djebbari, 37 ans, qui sera en charge, lui, des transports.
Dans ce journal également, des polluants dans notre corps, issus des produits ménagers, des cosmétiques, des emballages alimentaires. Santé publique France a mesuré les substances du quotidien que nous ingérons, sans même nous en rendre compte.
Dans votre grand journal ce soir, également la fraude aux prestations sociales. Rapport rendu aujourd'hui par deux sénatrices. Nous appelons Nathalie Goulet dans un instant. Ce sera le coup de fil du 18h.
Et puis nous irons en Grande-Bretagne. I will never surrender. Je ne me rendrai jamais, promet Boris Johnson. Il perd sa majorité au Parlement. Ambiance électrique ce soir. C'est la rentrée des députés britanniques et il s'apprête à voter un texte pour empêcher un Brexit sans accord.
Enfin, le coup de gueule du maire de Saint-Gervais contre les uluberlus de la montagne. Un Britannique a abandonné une machine de musculation à 4000 mètres d'altitude sur le Mont-Blanc.
La Bourse de Paris en repli ce soir en pleine incertitude justement liée à ce Brexit. -0,49% à 5466 points.
Et la tendance météo, c'est avec Wanissa.
Il a fait très beau. Aujourd'hui, demain, ça se gâte avec l'arrivée d'une perturbation sur l'ouest.
On regarde tout cela dans le détail après 19h.
Europe 1.
Ce n'est donc pas tout à fait un remaniement, plutôt un ajustement au gouvernement ce soir, un aménagement destiné à lancer le dossier le plus sensible des mois à venir, celui de la réforme des retraites. Bonsoir Michaël Darmon.
Bonsoir.
C'est donc l'homme de cette réforme qui va rejoindre l'équipe d'Edouard Philippe, comme vous nous le révéliez dès ce matin sur Europe 1. L'annonce est imminente, hein, c'est Jean-Paul Delevoye.
Oui, effectivement, ça va être annoncé en fin de journée, hein, selon plusieurs sources concordantes au sommet d'État. Vous l'avez dit, Jean-Paul Delevoye est donc l'homme de la négociation, de la concertation, qui était jusqu'à présent à l'extérieur du gouvernement en tant que secrétaire consacré donc, aux retraites. Il a piloté, organisé, structuré toute cette réforme et maintenant il va effectivement porter la concertation, la négociation et la pédagogie à l'intérieur donc, du gouvernement. Il siégera au Conseil des ministres, il aura aussi donc, des moyens, une autre voie également, une forme d'autorité nouvelle et permettra également de soulager Agnès Buzyn qui aussi a fort affaire avec les urgences et d'autres sujets.
L'autre arrivée au gouvernement, c'est celle de Jean-Baptiste Djebbari.
Oui, un jeune donc macroniste, député macroniste de la Vienne. Alors, on peut considérer qu'effectivement, l'affectation tombe bien parce qu'il est pilote professionnel de ligne. Il s'occupe des transports beaucoup donc à l'Assemblée nationale. Il a été très présent sur toute la réforme de la SNCF. Il vient également d'une région du Limousin, dans la Vienne, enclavée, qui également a beaucoup d'enjeux de ce point de vue-là. C'est un signal donné à la majorité. Le président de la République avait parlé de réaménagement pour aider des ministres et non pas de remaniement. Il passe à l'acte.
Michaël Darmon, éditorialiste politique Europe 1, merci. Vous restez dans le coin parce que vous revenez évidemment à 18h30 avec les grandes voix. On reviendra sur ces deux arrivées au gouvernement tout à l'heure. Donc évidemment dans notre rendez-vous quotidien.
Le gouvernement qui était très représenté cet après-midi pour l'ouverture du Grenelle des violences conjugales. Une dizaine de ministres alignés à Matignon face aux associations, aux défenseurs des victimes, mais aussi à des magistrats, à des policiers. 80 invités qui vont participer pendant 3 mois à ces discussions pour tenter de mettre fin à ce terrible compteur macabre. 101 femmes victimes de féminicide depuis le début de l'année. C'est le Premier ministre Édouard Philippe qui a ouvert ce rendez-vous par une sorte de mea culpa. Écoutez.
Aujourd'hui, dans notre pays, des femmes meurt étranglé, poignardé, brûlé, roué de coups. Depuis des siècles, ces femmes sont ensevelies sous notre indifférence, sous notre déni, sous notre incurie, peut-être sous notre machisme séculaire et au fond sous notre incapacité à regarder en face, les yeux dans les yeux, cette horreur. La bonne façon de regarder le sujet, c'est de dépiauter un par un les endroits où nous avons failli, afin que un par un nous puissions les corriger.
Voilà Édouard Philippe qui lançait le Grenelle des violences conjugales. Et on va rejoindre Ève Roger qui a suivi cette première journée.
En effet Sébastien, bonsoir Ève Roger.
Bonsoir.
Allons dans le détail avec vous sur les mesures que le gouvernement annonce ce soir avec notamment 1000 nouvelles places d'hébergement pour les femmes victimes.
Oui, il en existe aujourd'hui 5000, en voilà 1000 de plus, mais pas spécifiquement pour des femmes victimes de violences conjugales, regrettent déjà les associations car elles pourraient y côtoyer les SDF par exemple. Le Premier ministre a aussi promis la généralisation des dépôts de plaintes dans les hôpitaux et l'amélioration de l'accueil par les policiers et les gendarmes grâce à un audit mené l'année prochaine dans 400 commissariats en France. Du progrès aussi du côté de la justice. Édouard Philippe a annoncé qu'il y aurait des procureurs spécialisés dans tous les tribunaux de France et dans certains, comme à Créteil, de nouvelles chambres dites d'urgence pourront accélérer les délais. La justice pourrait agir dans les 15 jours, a-t-il promis.
Ève, d'autres mesures ont aussi été annoncées pour éloigner les conjoints violents.
Et oui, l'idée c'est de poser le plus rapidement possible sur l'homme violent le fameux bracelet électronique qui alerte la police quand il se rapproche trop de son ex-compagne, dès qu'il a été condamné pour violence conjugale, mais pas seulement, a promis le Premier ministre. Même avant, quand la femme fait l'objet d'une ordonnance de protection par exemple, le bracelet pourrait être posé dans les 48 heures. Et puis, une annonce très attendue par les associations, un homme qui a tué son ex-compagne perdra immédiatement son autorité parentale sur ses enfants, ce qui n'est étonnamment pas le cas aujourd'hui.
Ève Roger en ligne et en direct depuis Matignon pour Europe 1. Et juste avant l'ouverture de ce Grenelle, Emmanuel Macron a rendu une visite discrète, sans micro ni caméra, à la plateforme d'écoute mise en place pour les victimes, 3919. Le président de la République a écouté d'ailleurs certains témoignages.
Et on va voir maintenant comment les associations réagissent ce soir à ces annonces, elles qui demandaient un plan Marshall. Les familles de victimes aussi, elles ont marché cet après-midi à Paris, vers Matignon et aussi dans plusieurs villes en France. Hélène Terzian, vous les avez suivies à Paris. Ce qu'on peut dire déjà ce soir, c'est qu'elles sont très critiques des annonces.
Oui, ce sont même des familles très en colère que j'ai entendues ici. Pour Françoise, dont la mère a été tuée par son mari, 1000 places d'hébergement supplémentaires et des audits dans les commissariats et les gendarmeries, c'est insuffisant.
C'est honteux, c'est pas suffisant. Et puis en plus, les femmes n'ont pas forcément besoin d'un logement puisqu'elles en ont déjà un. Trouver plutôt des places à ces personnes qui leur font des violences. Laisser les femmes et les enfants dans leur maison.
Il y a aussi 400 audits dans les commissariats.
Les commissariats, même s'il y a des audits, ok. Est-ce que ça va suffire? Ça va mettre combien de temps l'audit? 6 mois, 8 mois? On fera le décompte des femmes assassinées en attendant, mais c'est maintenant qu'il faut agir.
Agir vite, former immédiatement les policiers qui sont amenés à recueillir les plaintes de ces femmes. C'est justement le principal message de ces familles qui ont défilé plus tôt dans la journée au son de la marche funèbre. Le portrait de leur fille, de leur sœur entre les mains. La cousine d'Isabelle a été tuée par son compagnon en mars dernier.
C'est l'urgence de prendre en compte, de former ce personnel et qu'il réagisse immédiatement, qu'on n'attende pas quand une femme porte plainte de classer ça sans suite. C'est pas admissible.
Ma cousine, elle a passé plusieurs appels la nuit de son décès en prévenant la police qu'elle était en danger. Et ils ne sont jamais venus, jamais. Il y en a d'autres qui sont vivantes et qu'il faut maintenant protéger, maintenant, pas demain, maintenant.
Quant à la mise en place du bracelet électronique évoqué par le Premier ministre, l'annonce est saluée. Mais là aussi, il faut aller très vite, martèlent les familles.
Hélène Terzian devant Matignon pour Europe 1. Merci.
Europe 1, il est 18h07, votre grand journal du soir. Sébastien Krebs, Nathalie Lévy.
On en vient maintenant à ces polluants détectés dans notre corps. Ce sont des substances du quotidien qui se retrouvent dans notre organisme sans même que l'on s'en rende compte.
On va essayer de comprendre tout ça avec vous. Virginie Salmen, vous nous avez rejoint. Bonsoir Virginie.
Bonsoir.
C'est Santé publique France qui rend publique cette étude. On parle de bisphénol, de phtalates, de parabènes. C'est quoi exactement et d'où ça vient tout ça?
Alors c'est par exemple ce qu'on appelle des retardateurs de flamme bromés. Donc ce sont des produits chimiques qu'on retrouve par exemple dans les textiles des canapés, des sièges de voiture. Ça sert à les rendre moins inflammables au départ. Autre polluant du quotidien, les composés perfluorés. Ceux-là, on les retrouve dans le revêtement des des poêles en téflon, mais aussi dans le plastique des téléviseurs ou encore, vous savez, dans les sachets de maïs qu'on fait exploser au micro-ondes et même dans certains fils dentaires. Et puis il y a les phtalates dans le plastique de certains jouets d'enfants, les bisphénols et les parabènes dans les cosmétiques. Ce qui est primordial dans cette étude, c'est qu'elle montre que ces polluants sont présents dans l'organisme de tous les enfants et les adultes testés. 1000 enfants et 2500 adultes, ce sont les enfants qui présentent les plus forts taux de ces substances. Alors, on n'a aucune certitude, mais c'est probablement parce qu'ils mettent plus de plastique à la bouche d'abord, et puis proportionnellement à la taille de leur corps, ces substances ont plus d'impact. Alors, pour essayer de limiter l'exposition des Français à ces polluants, le gouvernement lance une campagne d'information, notamment à destination des femmes enceintes et des bébés. Vous pouvez aller voir dès maintenant sur le site internet Agir pour bébé, qui vient tout juste d'être mise en ligne, avec des conseils pour limiter ces polluants chez soi.
Merci. Virginie Salmen, spécialiste environnement d'Europe 1. Et on y revient après ce journal dans le détail avec mon invité. Il sera dans ce studio, le chimiste et toxicologue André Cicolella.
Et puis la piste criminelle retenue à Strasbourg après l'incendie d'un immeuble HLM à Schiltigheim qui a coûté la vie la nuit dernière à un enfant de 11 ans et blessé 11 autres habitants. Un deuxième homme a été arrêté et placé en garde à vue. Un suspect de 22 ans, déjà connu pour d'autres départs de feu. Un premier suspect a été relâché. Nous irons à Strasbourg tout à l'heure dans le journal de 19h.
Europe 1. Votre grand journal du soir, Nathalie Lévy.
À suivre le dossier de ce journal de 18h, des milliards d'euros qui s'échappent des caisses de l'État, des aides sociales versées indûment. Nous appelons la sénatrice Nathalie Goulet qui prépare un rapport sur le sujet.
Votre grand journal du soir sur Europe 1 jusqu'à 20h. 18h10 sur Europe 1, la suite du journal Sébastien Krebs, Nathalie Lévy.
Et nous ouvrons à présent notre dossier ce soir. Comment mieux traquer les fraudes aux prestations sociales? Nous avons choisi de nous y arrêter un instant. C'est le coup de fil du 18h, Sébastien.
Bonsoir Nathalie Goulet.
Oui, bonsoir.
Vous êtes sénatrice UDI, vous préparez un rapport justement sur cette question, rapport qui sera rendu le mois prochain. Est-ce qu'on a une idée de l'ampleur de la fraude aux aides sociales? On lit plusieurs chiffres, on lit 7 à 14 milliards d'euros.
Oui, c'est probablement ça. En fait, on n'a pas tellement une culture de la fraude, enfin de l'évaluation de la fraude en France, et en matière sociale encore moins. Puisque ça fait appel quand même à des ressorts qui ne sont pas forcément d'actualité. Donc en fait, il faut savoir qu'on verse environ 450 milliards de prestations par an. La fraude sociale, c'est de l'argent qu'on verse, qui sort des caisses de l'État et du contribuable tous les mois. Et donc, l'université de Portsmouth en Angleterre est la seule à avoir fait une évaluation entre 3 et 10% de ce montant, reconnu par la Cour des comptes d'ailleurs, est fraudé. Donc, c'est une fraude effectivement très importante sur laquelle je travaille avec ma collègue Carole Grandjean, députée de Meurthe-et-Moselle.
Concrètement, Nathalie Goulet, la France est-elle capable, et apparemment non, de détecter les fraudeurs?
Oh, mais moi, je crois que si, justement. C'est une question de volonté. C'est d'abord une question de volonté et d'organisation. Il faut savoir que les caisses d'assurance maladie, les caisses d'allocation familiale, les caisses vieillesse, etc., ont tendance à penser que les données sont les leurs. Et donc, on manque de partage de données. Il ne s'agit pas de ficher tous les Français, il s'agit de partager les informations. Bon. Ensuite, il y a une fraude documentaire qui est extrêmement importante. Et là, il faut vraiment trouver des méthodes nouvelles. Et puis, on a un système qui date de 1946 et qui n'est pas adapté à la mobilité ni géographique ni professionnelle du monde d'aujourd'hui. Et donc, chaque fois qu'on allège les conditions pour former des entreprises, chaque fois qu'on dématérialise, etc., on crée la fraude qui va bien avec.
Parce que ça veut dire qu'il y en a qui passent dans une sorte de passoire, ce que vous voulez dire, d'une certaine manière?
Ben oui, mais quand vous dématérialisez, quand vous n'avez plus de contact physique avec les gens, vous comprenez bien que frauder avec des faux documents qu'on scanne, etc., c'est beaucoup plus facile qu'avec des documents et qu'avec un contact physique avec des caisses.
Il y a quand même un chiffre qui nous a frappé dans votre rapport, c'est qu'en France, il y a 84 millions de cartes vitales alors qu'il n'y a que 67 millions d'habitants. C'est quand même assez surréaliste.
Oui, alors là, justement, c'est pour ça qu'on a publié les chiffres exacts tels qu'ils nous ont été donnés, parce que maintenant, on va sortir le vrai du faux et voir sur ce nombre très important de cartes en circulation, quelles sont celles qui sont actives, celles qui ne le sont pas, et puis on va exiger des preuves de vie de la part d'un certain nombre de gens. On a beaucoup glosé sur Jeanne Calment, peut-être c'était sa fille, peut-être c'était elle, mais peut-être que aussi ce genre de cas est beaucoup plus important qu'on pense.
Merci beaucoup Nathalie Goulet, sénatrice UDI de l'Orne. Votre rapport qui sera attendu au mois d'octobre sur cette question des fraudes aux prestations sociales. Merci à vous.
Et nous allons maintenant à Londres dans cette ambiance. This statement, Mr. Speaker, to the House. Voilà, bienvenue à Westminster pour la rentrée des députés britanniques. Toujours en plein psychodrame sur le Brexit. Ambiance électrique ce soir, les parlementaires qui s'apprêtent à voter pour tenter de forcer la main au nouveau Premier ministre Boris Johnson. Ils veulent empêcher une sortie de l'Union européenne sans accord.
Et le contraindre à demander un nouveau report. On va rejoindre à Londres immédiatement notre envoyé spécial Pierre Herbulot. Bonsoir Pierre.
Bonsoir Nathalie.
Ce que l'on sait déjà ce soir, c'est que Boris Johnson est mis en difficulté. Il a perdu sa majorité au Parlement.
Oui, et ça s'est passé au moment même où il prononçait son discours de rentrée. C'est par communiqué que le député de la majorité, Philippe Lee, annonce rejoindre le camp des libéraux démocrates. Un départ dans un contexte déjà explosif, puisque, vous le disiez Sébastien, dans les prochaines heures, les députés de l'opposition vont tenter de faire voter dans l'urgence un nouveau report du Brexit. Ce à quoi le Premier ministre a réagi tout à l'heure en choisissant bien son vocabulaire. Écoutez.
Je n'abandonnerai jamais le contrôle de nos négociations comme le demandent les leaders de l'opposition. Nous avons promis à nos citoyens que nous ferions le Brexit. Nous avons promis de respecter le résultat du référendum et nous devons le faire maintenant. Trop, c'est trop. Il n'y aura pas encore une fois de report inutile du Brexit.
Et pourtant, puisque le gouvernement vient de perdre sa majorité, avec en plus une vingtaine de frondeurs dans son camp, ce report a toutes les chances d'être voté ce soir. Dans ce cas-là, la riposte de Boris Johnson est déjà connue. Il déposera une motion demain au Parlement pour tenter d'organiser des élections anticipées à la mi-octobre.
Pierre Herbulot en ligne de Londres pour Europe 1 et cette tension qui se ressent aussi du côté de la City. La livre sterling est tombée à son plus bas niveau aujourd'hui depuis 3 ans.
Et ça n'a rien à voir avec le Brexit, croyez-moi, c'est un Britannique pour autant. Qui déclenche, attention, les foudres d'un maire français, ça se passe au pied du Mont-Blanc.
Ouais, c'est le maire de Saint-Gervais, tellement en colère qu'il a écrit au président de la République. Il dénonce les hurluberlus de la montagne. Il faut dire que ce touriste anglais alpiniste a eu une idée plus que curieuse. Il est monté avec une machine de musculation, un rameur, pour faire son sport à 4000 mètres d'altitude. Et comme il était fatigué, bah, il l'a laissé là-haut.
Rien que ça.
On entendra le maire dans le journal de 19h.
Avec vous Sébastien Krebs, parce que vous revenez évidemment à 18h30 d'ores et déjà. Merci à vous.
À tout à l'heure.
Profitez d'un temps toujours clément avec Rénoval, Véranda et Abri de piscine. Rénoval vous présente la météo.
Et vous allez reconnaître la voix d'Anissa pour la couleur du ciel.
Alors, j'ai pas de très bonnes nouvelles à vous annoncer parce qu'on a eu une très belle journée aujourd'hui, hein, belle journée d'été. Eh bien, le temps change demain, Nathalie, avec le passage d'une petite perturbation, c'est important, qui arrive par l'ouest. Donc, demain matin, sur le nord, les côtes de la Manche, la Bretagne, là, la journée va débuter sous la pluie, avec un ciel très gris, des rafales de vent allant jusqu'à 60 km/h sur les côtes de la Manche et la mer du Nord, soyez prudents. À l'avant de cette perturbation, ça veut dire sur tout le reste du pays, là, le soleil va briller. Au fil des heures, le beau temps revient à l'ouest, les nuages se déplacent vers l'est. Du coup, ces nuages apportent de la pluie. Où ça ? Bah, sur le bassin parisien, la Sarthe, la Mayenne et les Pays de la Loire. Les températures, elles sont toujours fraîches, voire même froides le matin. 6 à 10 degrés dans la moitié nord. Demain après-midi, il va faire bon. 24 à Paris, 29 à Clermont-Ferrand, toujours chaud dans le sud. 31 à Marseille, 34 à Nîmes demain après-midi.
Les températures, c'est pas mal, mais on est au mois de septembre, il faut arrêter de rêver.
Bah, c'est ça, c'est un temps de rentrée. Ce que vous voulez. Dans un instant, dans votre grand journal du soir, Nathalie Lévy.
On en parlait dans le journal, de nombreux polluants présents dans notre corps. Les enfants sont les plus touchés. Je reçois dans un instant, dans ce studio, le chimiste et toxicologue André Cicolella.
La suite de votre grand journal, c'est jusqu'à 20h. Votre grand journal du soir se poursuit sur Europe 1, Nathalie Lévy. D'après cette étude de l'Agence Santé publique France, des polluants de l'environnement se trouvent dans notre corps. Vous recevez ce soir André Cicolella. Il est chimiste et toxicologue.
Bonsoir André Cicolella.
Bonsoir.
Bienvenue dans le studio Europe 1. Merci d'avoir accepté notre invitation. Le verdict est sans appel. Il est impossible d'y échapper. 6 polluants du quotidien sont présents dans l'organisme de tous les Français. C'est le résultat donc de cette grande étude de Santé publique France. Quels sont-ils, ces perturbateurs endocriniens, et est-ce qu'ils sont véritablement partout ?
Oui, enfin les plus importants en tout cas, type bisphénol, phtalate, parabène, alkylphénol, polybromé, pour lesquels on a des données scientifiques solides.
Ils sont dans les vêtements, les jouets ?
Oui, dans les vêtements, principalement dans la sphère domestique d'ailleurs, les cosmétiques, donc ça se retrouve dans l'alimentation, dans l'habitat, des sols en PVC par exemple, sur une source de phtalate.
Les aliments ?
Donc forcément dans les aliments, notamment l'alimentation, ce qu'on appelle l'alimentation ultra transformée, la transformation contamine en phtalate ou en bisphénol notamment, dans les dispositifs médicaux, dans les médicaments. Donc c'est effectivement une contamination générale, c'est ce que confirme l'étude de Santé publique France. Mm-hmm. Et le problème c'est quelles conséquences pour la santé.
C'est ça, on rappelle peut-être quelques mots, est-ce qu'ils sont indiqués d'ailleurs sur sur les étiquettes des
justement,
articles bisphénol, aphtalate, des solvants et autres parabènes, c'est jamais indiqué. Hein.
Non, c'est le problème.
C'est ça.
C'est-à-dire qu'effectivement, la réglementation est un peu plus qu'à la traîne, d'ailleurs. On a obtenu, parce que je suis aussi président du réseau Environnement Santé, c'est à ce titre-là que je m'exprime, on a obtenu l'interdiction du bisphénol dans les biberons. Ça avait fait beaucoup de bruit à l'époque dans les boîtes de conserve, mais il y a d'autres sources.
Alors, en effet, en 2017, une étude publiée dans le magazine 60 millions de consommateurs montrait que sur 43 enfants et adolescents testés, 100% d'entre eux présentaient des traces de ces substances chimiques dans leurs cheveux. Adultes et enfants sont concernés, et on le voit encore un peu plus aujourd'hui dans cette étude. Les enfants, j'allais dire, sont en première ligne.
Oui. Alors, il y a un phénomène générationnel. Alors, ce qu'il faut bien comprendre avec les perturbateurs endocriniens, c'est que l'enjeu, c'est la contamination pendant la grossesse.
Ah oui.
C'est ça qui est déterminant pour la santé de l'enfant, du futur adulte et des descendants.
Et des descendants.
Et d'ascendants. On a des études sur le bisphénol, des études sur le rat, mais qui sont tout à fait transposables. Au niveau de contamination où on est, où est la population humaine, vous donnez ces doses-là à des rats gestantes, vous induisez chez les fils, les petits-fils et les arrière-petits-fils, infertilité et baisse de la qualité du sperme. Or, baisse de la qualité du sperme, on a les données en France, un homme de 30 ans a perdu sur 50 ans 2 spermatozoïdes sur 3. Donc, il n'y a pas d'autre explication que ces perturbateurs endocriniens.
Alors, qu'est-ce qu'on fait et qu'est-ce que font les pouvoirs publics aujourd'hui, précisément? Elisabeth Borne, ministre de la Transition écologique, Agnès Buzyn, ministre de la Santé, Adrien Taquet, secrétaire d'État chargé de la protection de l'enfance, ont présenté la deuxième stratégie nationale sur les perturbateurs endocriniens. Vous les avez écoutés attentivement, évidemment. Est-ce que les propositions qui sont formulées, c'est-à-dire former et informer, c'est-à-dire dès 2020, une liste de perturbateurs endocriniens publiée, est-ce que c'est suffisant?
Alors nous sommes à l'origine de cette stratégie. La France est le seul pays au monde à s'être doté d'une stratégie. Donc le texte est bien.
La question, c'est comment on le met en œuvre.
Quels moyens on met en œuvre parce que vous comprenez, on s'adresse à l'ensemble de la population. C'est l'ensemble. Il faut que chaque citoyen soit conscient, gère au mieux son environnement et prend en priorité les femmes enceintes.
Bien entendu. Hein,
et donc, notamment l'environnement des femmes enceintes, ça veut dire l'alimentation bio, par exemple. Voilà, on élimine déjà une contamination par un certain nombre de pesticides.
C'est garanti, ça ? C'est garanti, André Cicolella, que dans l'alimentation bio...
Oui, globalement. Alors, il y a quelques pourcents, effectivement. Mais donc,
globalement, c'est
une première mesure.
D'accord.
Il y a des mesures d'hygiène simples, d'ailleurs, et l'étude Santé publique France le montre. C'est mieux, effectivement, d'aérer son habitation, de passer l'aspirateur. Ouais, c'est des gestes assez simples, mais qui se traduisent par une contamination moins élevée.
D'accord. Donc, ce deuxième projet pour vous, aujourd'hui, va dans le bon sens en matière d'information. Sauf que le financement n'est pas là, c'est ce que j'allais dire. Qu'est-ce que vous réclamez qu'on vous propose?
On avait demandé un financement à hauteur du plan cancer.
Ouais. Ouais,
le plan cancer, on fait le bilan cette année. Le cancer continue de progresser. Vous avez vu les derniers chiffres, y compris les cancers hormonodépendants, qui sont les cancers directement liés aux perturbateurs endocriniens. Le cancer du sein remonte à la hausse.
Bien sûr.
Les cancers du sein, les cancers de la prostate démarrent dès la grossesse. Vous voyez, ça, c'est une donnée effectivement majeure. Alors évidemment, même si ça survient des âges de plus en plus jeunes, des femmes de plus en plus jeunes, avec des cancers de plus en plus agressifs aux âges jeunes. Donc vous voyez, l'enjeu de santé publique n'est pas marginal. Donc il faut mettre des sommes en conséquence. Le plan cancer, 1,5 milliard.
Et
sur la santé environnementale, quasiment rien aujourd'hui.
André Cicolella, donnez-nous quelques gestes au quotidien, quelques conseils, j'allais dire. Vous dites que voilà, il faut ouvrir, etc. Par exemple, dans les produits hygiéniques, dans l'alimentation, parce que tout le monde mange. Ça, là-dessus, on est tous d'accord. Donc dans l'alimentation, comment on fait les récipients en plastique, par exemple? Ça, c'est un danger.
La règle, c'est une règle. Alors après, tous les plastiques ne contaminent pas de la même façon. Hein. Mais par exemple, l'ANSES a montré dans une étude sur l'alimentation infantile que les petits pots...
En verre, normalement, les petits pots, non ?
Même en verre. Lorsque c'est dans un contenant en plastique, alors là, évidemment, la contamination est trois fois plus élevée lorsque c'est dans le verre. Mais même dans le verre, c'est contaminé. C'est-à-dire que le processus de transformation contamine l'alimentation.
Ouais. Les vêtements, les textiles, on s'habille tous, c'est pareil que l'alimentation, on est tous obligés de se vêtir. Qu'est-ce qu'on fait? On opte pour certaines matières plus que d'autres?
Il faut éliminer les alkylphénols dans les produits de nettoyage, donc, qu'on va retrouver sur les vêtements notamment. Grand contaminant de l'eau, parce que l'eau évidemment, ça nous revient. Contamination de l'écosystème, il faut parler aussi de ça. Oui.
Les jouets, c'est pour ça qu'on pointe les enfants. On dit que les enfants sont plus jugés parce que les enfants mettent les jouets à la bouche dès le plus jeune âge. C'est pour ça
alors,
aussi.
La réglementation a un peu évolué. On a interdit un certain nombre de perturbateurs endocriniens. Mais personne ne s'est soucié de ramasser les jouets anciens. Et puis les importations de jouets, je ne suis pas sûr que ce soit vraiment très contrôlé. De la même façon, les boîtes de conserve, on sait que c'est marginalement contrôlé.
En tout cas, vous l'avez dit, il y a ce deuxième volet qui a été présenté aujourd'hui, cette deuxième stratégie présentée aujourd'hui, la stratégie nationale sur les perturbateurs endocriniens. Plus d'informations, formées et informées, c'est véritablement le point de départ.
Alors, nous avons lancé une charte des villes et territoires sans perturbateurs endocriniens. Et avant de venir, vous voyez, je signais la première charte d'une mutuelle, la mutuelle familiale. Les mutuelles s'engagent, les établissements de santé aussi s'engagent, les écoles pas aussi commencent à s'engager. Vous voyez, c'est un mouvement citoyen qui se construit. Cette charte est signé par trois régions pour l'instant, Île-de-France, Occitanie, je signe avec la présidente de la région, Carole Delga, Occitanie, dans un mois, trois conseils départementaux, vous voyez, donc toutes les choses, la société civile est en train de se mobiliser, et je crois que c'est ça qui va changer les choses.
Merci beaucoup, André Sicolella, d'être venu ce soir nous éclairer sur ce sujet. Alors, vous êtes chimiste, toxicologue et fondateur du réseau Environnement Santé. Merci à vous.
Votre grand journal du soir à suivre, Nathalie Lévy.
Dans un instant, le rappel des titres, la météo et le débat des grandes voix tous les soirs entre 18h30 et 19h. C'est votre rendez-vous pour décortiquer l'actualité. Ce soir au menu, les annonces d'Agnès Buzyn pour désengorger les urgences. Sont-elles suffisantes, ces annonces? Et puis le remaniement, on ne va pas parler de remaniement d'ailleurs, plutôt de réajustement. Deux nouveaux entrants ce soir, on fait les présentations et on vous attend au 39-21.
Votre grand journal du soir jusqu'à 20h sur Europe 1. Il est 18h30 sur Europe 1, votre grand journal du soir, Nathalie Lévy.
Le rappel des titres de l'actualité avec vous Sébastien Krebs.
Et du mouvement au gouvernement ce soir, Europe 1 vous l'annonçait dès ce matin. L'entrée de Jean-Paul Delevoye pour porter le dossier de la réforme des retraites. Il est l'auteur du rapport commandé par Emmanuel Macron sur le sujet. Et puis le jeune député macroniste Jean-Baptiste Djebbari, 37 ans, va prendre en charge le dossier des transports pour épauler Elisabeth Borne. Des annonces pas à la hauteur des enjeux, disent déjà les associations et proches de femmes victimes après l'ouverture du Grenelle des violences conjugales aujourd'hui. Le Premier ministre Édouard Philippe a dévoilé une série de mesures d'urgence. 5 millions d'euros pour créer 1000 nouvelles places d'hébergement. Un audit mené dans les commissariats pour mieux entendre la parole. La possibilité de déposer plainte à l'hôpital. Et puis l'éloignement des conjoints par bracelet électronique. À Strasbourg, un deuxième homme interpellé après l'incendie qui a coûté la vie à un enfant de 11 ans et blessé 11 personnes la nuit dernière à Schiltigheim, près de Strasbourg. À la piste criminelle retenue, ce suspect de 22 ans était déjà connu pour d'autres incendies. On y reviendra à 19h. L'ouragan Dorian faiblit ce soir alors qu'il s'approche des côtes de Floride, rétrogradé en catégorie 2, des vents à 175 km/h, des pluies diluviennes. Plusieurs millions de personnes ont été évacuées des côtes américaines. Le Royaume-Uni dans l'angoisse du Brexit, la livre sterling tombée aujourd'hui à son plus bas niveau depuis 3 ans. Ce soir, Boris Johnson a perdu sa majorité absolue au Parlement, qui s'apprête à voter un texte contre lui pour tenter d'empêcher un Brexit sans accord. Et puis le début des quarts de finale à l'US Open, c'est du tennis bien sûr, avec deux Suisses sur les cours ce soir, Roger Federer face au Bulgare Grigor Dimitrov et puis Stan Wawrinka qui affronte le Russe Medvedev. Demain, on suivra bien sûr Gaël Monfils.
Merci Sébastien, vous revenez dans une demi-heure. La météo, Anissa.
Profitez d'un temps toujours clément avec Rénoval, Véranda et Abri de Piscine. Rénoval vous présente la météo.
Alors demain, Nathalie, la journée sera mitigée avec l'arrivée d'une perturbation par l'Est. Ça veut dire qu'au nord, en Normandie, sur les côtes de la Manche et en Bretagne, vous allez vous réveiller avec la pluie demain matin. Dans l'après-midi, rassurez-vous, le soleil est de retour. Dans la journée, les pluies arrivent sur les frontières du nord, le bassin parisien et les pays de la Loire. Dans ces régions, il va vraiment falloir prévoir le parapluie demain après-midi. Les températures fraîches, voire même froides le matin, 6 à 13 degrés dans la moitié nord. L'après-midi, il va faire chaud, 24 à Paris, 29 à Clermont-Ferrand et jusqu'à 33 degrés à Nîmes.
Merci Anissa.
Europe 1.
Votre grand journal du soir, Nathalie Lévy.
Les grandes voix jusqu'à 19h, comme chaque soir, ils sont avec moi dans ce studio. Bonsoir Charles Villeneuve.
Bonsoir.
Bienvenue à vous, Gérard Carrérou également. Bonsoir à vous et bienvenue
bonsoir.
Gérard. Mickaël Darmon est également avec nous, éditorialiste bonsoir. Europe 1. Bonsoir Mickaël. Et vous aussi, on vous attend au 39-21, vous avez votre mot à dire. On vous attend nombreux. Mickaël, vous avez suivi le dossier toute la matinée et vous avez été le premier à sortir l'information ce matin. Deux entrants dans ce gouvernement, Jean-Paul Delevoye, Jean-Baptiste Djebbari. Vous le saviez, c'est arrivé en milieu de matinée. Pas un remaniement, un réajustement.
Oui, selon le terme d'ailleurs posé par le président de la République lui-même en début de saison, enfin il y a quelques jours, lors de sa rentrée, en disant que s'il fallait faire des réaménagements pour aider des ministres qui n'y arrivent pas, c'était ses propos, eh bien on le fera et ce sera comme d'habitude. Alors c'est vrai que Jean-Paul Delevoye a été annoncé depuis longtemps. De ce point de vue-là, on sait que et son entrée au gouvernement n'était pas un mystère. Ce qui est intéressant, c'est d'abord la manière dont il entre, c'est-à-dire qu'il reste finalement haut commissaire, il ne devient pas ministre. On pourra en parler effectivement sur la signification. Et puis, c'est le timing, comme on dit. On est à la veille d'un séminaire gouvernemental où là, on va avoir une grande séance de DRH, de la rentrée et la fameuse inauguration de l'acte 2 du gouvernement. Donc, de ce point de vue-là, celui qui est l'homme de la concertation, spécialiste des négociations, qui a une capacité à pouvoir donc connaître les rouages et sentir les rouages de la société, va servir à déminer cette réforme extrêmement sensible. Et quant à Djebari, eh bien, Jean-Baptiste Djebari, c'est un signal envoyé à la jeune garde.
C'est ça, c'est Jean-Baptiste Djebari, un fidèle, 37 ans, la nouvelle garde,
député de la Vienne,
très présent dans les médias,
et spécialiste des questions de transport, qu'on a beaucoup entendu sur la réforme de la SNCF, qui a beaucoup défendu le gouvernement pendant la crise des Gilets jaunes, issu d'une région enclavée. Anecdote, mais c'est intéressant, il est lui-même pilote de ligne, donc on peut penser qu'effectivement il est peut-être sensibilisé aux commandes maintenant de ce nouveau portefeuille. Mais c'est également un autre signal, il y avait eu quand même des grognements dans la majorité. Lorsque, au dernier remaniement, c'était deux conseillers présidentiels qui étaient passés au gouvernement et non pas des élus de la jeune garde. Donc c'est aussi une manière de leur montrer que le président ne les oublie pas.
Il les a repérés, il les a vus et il les promeut. Donc Gérard Carrérou, quelle lecture on fait ? Incarner l'acte 2 du quinquennat, on continue à mener les réformes du pays, on change de méthode, on fait rentrer effectivement Jean-Paul Devoy, Jean-Baptiste Djebari, la co-construction cette fois, c'est comme ça qu'on peut appeler ça ?
Je me pose une question quand même sur M. Delevoye. D'abord, c'est un homme de qualité, je le dis tout de suite, ça a été un bon ministre sous la présidence de Jacques Chirac, il avait bien travaillé dans la première partie du mandat de M. Macron, en travaillant pendant près de 10 mois dans une concertation avec les syndicats. Tout le monde disait, il travaille bien, on peut discuter avec lui, etc. Et c'est lui qui avait sorti cette notion d'âge pivot 64 ans pour les retraites. Or, il se trouve qu'il s'est fait bazooker sur France 2 lors de l'interview avec Mme Lapix.
En sortie du
G7
à Biarritz.
Lors de l'interview où le président a dit, moi je ne suis pas pour le changement de l'âge. Je suis plutôt pour la durée de cotisation. Donc je me dis que ce brave monsieur Delevoye, est-ce qu'il va être là pour détricoter ce qu'il avait préparé dans sa concertation et dans son rapport ? On peut penser qu'il va être obligé de manger un peu son chapeau.
On va voir, Charles Villeneuve, quelle lecture
vous
faites.
C'est même certain. On ne va pas voir.
C'est-à-dire qu'en fait, on le met là pour finalement...
Non, mais on ne va pas voir.
Pousser à qui ?
Il a travaillé depuis 2 ans sur une hypothèse qui a été retoquée par le président de la République. Au contraire, il est l'illustration même du changement de ton, d'attitude et de fond du chef de l'État. Le chef de l'État, il est en train de se chiraciser complètement. Il est en train de revenir exactement avec les méthodes de l'ancien monde. C'est-à-dire, on a avancé, on a déchiré le tissu social avec l'affaire des Gilets jaunes, et puis on a trouvé 2 anesthésiques, premièrement de l'argent, et puis deuxièmement, le deuxième anesthésique, c'est évidemment de changer de pied, de revenir, comme a fait d'ailleurs Mitterrand, comme a fait à partir de 1984, comme a fait Chirac, et comme a fait Hollande. Pas Sarkozy. Sa technique était différente. Comme c'est un avocat, il pratiquait l'art du deal dès le départ. Donc c'est tout à fait différent. Et donc c'est ça pour moi qui est très important et très intéressant.
C'est là que vous observez. Donc être moins clivant, plus à l'écoute, tout en gardant le cap. On a changé de stratégie. On entre de plein pied dans cet acte 2. On s'en parle
dans un
tout petit
discours.
On a changé de discours.
Le président de la République n'est plus Jupiter.
C'est la brigade des démineurs qui est à l'œuvre maintenant. Déminer tous les dossiers.
À la différence près que Jacques Chirac, quand il a changé de pied, il a tout arrêté. Là, il y a un changement de pied, mais pour continuer.
On se le dit dans un instant, le changement de pied.
On le verra sur tous les sujets.
On en parle, restez avec nous. Et appelez-nous au 3921.
Vous écoutez Nathalie Lévy sur Europe 1 jusqu'à 20h. Jusqu'à 19h sur Europe, à la suite de votre grand journal du soir avec les grandes voix autour de vous, Nathalie Lévy, ce soir Charles Villeneuve, Gérard Carrérou et Mickaël Darmon, éditorialiste à Europe 1. Venez les interpeller au 39 21, 50 centimes la minute.
Et Charles Villeneuve le disait il y a un instant, finalement, on est dans un acte 2 qui démarre avec un exécutif qui arrondit les angles, qui calme le jeu. Et Georges, Charles, vous a entendu à Angers, peut-être, ou en tout cas, il partage votre point de vue. Bonsoir Georges, merci d'être avec nous en direct sur Europe 1. Macron arrondit les angles, Macron joue la câlinothérapie, Macron devient écolo, c'est la lecture que vous faites ?
Voilà. Alors moi, je pense en fait que dans les appréciations que j'ai pu avoir sur le discours concernant l'Amazonie, je pense que notre président prépare déjà les élections de 2022. En d'autres termes, si vous voulez, lors des élections européennes, vous avez eu un score des Verts à 14 ou 15 % et M. Macron va essayer de phagocyter, si vous voulez, l'électorat de Verts en se présentant comme le chantre de l'écologie. Voilà, c'est une appréciation que j'ai. Maintenant, à vous, les grandes voix, de pouvoir en discuter et de me donner votre avis.
Et vous avez raison, Georges, merci beaucoup de nous avoir rappelé. Vous allez écouter Georges Carrérou. Avant 2022, oui, il y a les municipales, demain, on pourra se dire.
En l'occurrence, Gérard est d'accord avec Georges. je pense effectivement, il y a deux choses dans le Macron de maintenant, de la deuxième partie du quinquennat. Il y a ce qu'on pourrait appeler le verdissage, pas le vernissage, mais le verdissage. Pour occuper la position des Verts,
il a récupéré. Il a peint du sol au plafond, si tu veux, en vert.
On l'a repeint en vert. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est un recul stratégique généralisé. On a parlé il y a 5 minutes des retraites, mais on peut faire la même analyse pour d'autres dossiers. Les urgences, par exemple, c'est un dossier, ça monte les urgences. Il y a plus de 200, il y a, je crois, à peu près la moitié des services d'urgence de France qui sont aujourd'hui en grève larvée, ils s'occupent des gens, mais ils sont en grève.
Et c'est un mouvement qui s'étend.
Le mouvement s'étend, il faut déminer.
Ça fait aujourd'hui 6 mois que ça dure. Oui.
Et on a dit, on a mis en garde le président de la République et le Premier ministre, on a dit, attention, les gens qui voient sur le terrain, leur ont dit, attention, ça va, c'est très mauvais. Parce qu'en plus, ce sont des professions populaires. Les gens aiment bien les infirmières, les gens aiment bien la médecine, et puis les gens ont tous la trouille d'aller
priori,
à l'hôpital
on
et
est
d'être
tous
mal soignés.
Là-dessus, on est tous égaux. Exactement, Gérard et Mickaël, on est là dans la câlinothérapie, on a vu Agnès Buzyn, elle est sur le terrain, elle connaît parfaitement Agnès Buzyn, elle est ministre de la Santé, mais elle a été professionnelle. Elle a dévoilé aujourd'hui des mesures au CHU de Poitiers, ses premières mesures pour désamorcer le mouvement de grève. Globalement, c'est insuffisant, c'est ce qui est dit.
Avant la câlinothérapie, on en parle beaucoup, on dit vraiment c'est ça, mais je crois qu'en réalité, c'est un autre sentiment qui les guide. L'exécutif est un petit peu dans une situation des grands brûlés, c'est-à-dire que dès qu'une allumette se craque, il sursaute. Et en fait, il y a une volonté d'être dans l'hypervigilance sur tous les sujets pour ne pas faire repartir la crise des Gilets jaunes, pour ne pas faire reparler la colère. C'est l'obsession de cet exécutif à la rentrée que ça ne reparte pas. Or, et là, vous l'avez dit, le problème, c'est qu'avec les urgences, on est au cœur de la problématique du désert médical. C'était au cœur de toutes les revendications sur tous les ronds-points. Bien parce sûr. Qu'il n'y avait pas que les actes parisiens. Il y avait les ronds-points qui étaient des bastions, des sortes de zones à gilets sur tout l'ensemble du territoire. Et les Français qui venaient là disaient « Mais la première des revendications, c'était « On veut sortir du désert médical ». La première revendication qui sort du grand débat, c'est le désert médical. Et effectivement, on voit bien que ça a été peut-être sous-traité. Et là, c'est en train de repartir. Et c'est peut-être la vraie zone de danger.
Exactement,
et
dans les mesures, hautement inflammable.
Dans les mesures que propose, il y a un certain nombre de mesures qu'elle a proposées aujourd'hui, c'est passé un peu inaperçu les mesures de Mme Buzyn, parce qu'il y a eu évidemment le Grenelle pour les femmes battues,
les violences conjugales.
Donc on a un petit peu sous-traité. Mais elle propose entre autres choses, elle propose non pas de faire des lits supplémentaires, ce qui est demandé par les gens qui sont actuellement en grève, elle propose éventuellement des méthodes comme la téléconférence pour pouvoir soigner. Tout ça, ce sont des choses intéressantes à explorer, mais ça ne répond pas...
Mais c'est quand ça marche bien que c'est un plus.
Exactement, ça ne répond pas au fond des choses.
Dans son ascension fulgurante et son départ, sa volonté de réformer la France au pas de charge, il est allé trop loin et il n'a rien écouté ou presque. Arrivent les Gilets jaunes, en effet... La désertification médicale, etc., faisait partie des revendications. Mais là, aujourd'hui, si vous voulez, en réalité, il a la tête, évidemment, à ses réformes, à petits pas, parce que pour l'instant, on soigne pas en réalité le symptôme.
Non, pour l'instant, d'ailleurs, il parle de mesurettes, que ce soit du côté des urgences, on va y venir.
Et puis Agnès Buzyn, qui connaît parfaitement son métier, qui est un médecin, etc., sait très bien, de toute façon, qu'il faut aller beaucoup plus loin, mais on a-t-elle les moyens ? Simplement, qu'est-ce qu'il a ? Il a la tête où ? Dans 6 mois, c'est les municipales. Et La République En Marche, parce que c'est une tête politique, il est devenu extrêmement politique d'ailleurs.
Donc ça veut dire
et
que...
Ça veut dire que comme il souffre, si vous voulez, d'un non pas d'un défaut, mais d'une faiblesse, c'est le maillage territorial électoral où ils sont quasiment absents, La République En Marche. Et comme dans la foulée de ces municipales va se produire, si vous voulez, une cascade d'élections jusqu'aux élections présidentielles, c'est en fonction de ça, qu'il est en train... Si vous voulez, non pas de reculer, mais de changer de pied, de changer de stratégie, y compris dans sa communication.
C'est ça. Donc il y a eu le mea culpa sur le manque d'humilité après la crise des Gilets jaunes. Maintenant, il faut faire entrer les Français dans la cuisine. Il faut discuter avec eux. Il faut être dans la co-écoute et il faut y aller piano, piano. On se retrouve dans un petit instant avec d'autres auditeurs qui nous appellent au 3921.
Vous écoutez Nathalie Lévy sur Europe 1 jusqu'à 20h. Votre grand journal du soir, la suite sur Europe 1, avec jusqu'à 19h le débat des grandes voix autour de vous. Nathalie Lévy ce soir, Charles Villeneuve, Gérard Carrérou et Mickaël Darmon, éditorialiste à Europe 1. Et toutes vos questions en direct, 3921.
On revient sur le mouvement de grève dans les services d'urgence. Vous êtes nombreux à nous contacter au 3921. On l'a dit, la ministre de la Santé, Agnès Buzyn, a dévoilé aujourd'hui, elle était à Poitiers, au CHU précisément, ses premières mesures pour désamorcer ce mouvement qui dure depuis maintenant 6 mois. Et de toute évidence, les réactions sont plutôt timorées. C'est jugé insuffisant, Mickaël Darmon.
Oui.
La ministre, elle est dans son élément pourtant.
Oui, mais c'est vrai que c'est une fois de plus la problématique d'être du métier, comme on dit. Lorsqu'on met un ministre, médecin à la santé ou un agriculteur à l'agriculture, eh bien, c'est souvent bien compliqué parce qu'on a ou une trop grande perception des sujets ou une
trop
difficulté
proximité.
À pouvoir s'affronter et à pouvoir donc vraiment réformer. Ce qui me frappe dans cette manière de donner des mesures et de tenter de juguler d'éteindre l'incendie, c'est la deuxième fois qu'il y a des volets de mesures. Il y avait une somme d'argent, 70 millions, qui avait été débloquée en urgence. Et là, des mesures qui, effectivement, s'apparentent à des mesurettes. Au début du mandat, à chaque fois que le gouvernement présentait une réforme, il disait « c'est systémique, il faut faire des réponses qui répondent à l'ensemble des problématiques du système ». Or là, on voit bien qu'on répond à un incendie qu'il faut circonscrire. Or, ce qu'il faudrait faire, c'est tout simplement être capable de pouvoir élargir des actes aux infirmières, susciter des vocations en payant mieux les personnels hospitaliers, augmenter le numerus clausus, mais ça prend 10 ans. Donc on voit bien que ce n'est pas demain qu'on aura la solution. Il faut que l'implantation des médecins en déserts ruraux puisse être également encouragée. Et tout cela, on ne le voit pas. Donc on comprend bien que c'est encore un incendie qu'on va éteindre, mais pas forcément le circonscrire.
Oui, voilà. Non, mais il faut de toute façon commencer par l'éteindre.
Oui, alors
déjà,
comment on fait ?
Avant toute chose.
Mais on voit bien que ça va suffire.
Je lis moi simplement...
Elle-même dit d'ailleurs, Agnès Buzyn, on n'est pas là simplement pour soigner le symptôme. Elle a parfaitement raison. Elle a quand même une urgence, c'est de réduire au maximum les passages des personnes âgées, notamment aux urgences. Elle a raison.
Généraliser l'admission directe également.
Qui est allé d'entre nous aux urgences, 2 fois de suite par exemple, ou 3 fois ? Qui a vu un peu l'engorgement ? Comment ça se passe ? Qui a pu observer pendant des heures couchés sur leur brancard ?
Dans les couloirs.
Notamment dans les couloirs, etc.
Et les courants d'air.
Avec un personnel pourtant consciencieux, professionnel, mais totalement débordé. Qui a observé ça comprend parfaitement, si vous voulez, l'exaspération, justement, non seulement des médecins eux-mêmes, mais des infirmiers.
Alors justement,
et des infirmières.
On a une infirmière, elle s'appelle Clémence, elle nous appelle de Saint-Malo. Bonsoir Clémence.
Bonsoir.
Merci de nous avoir joints sur le 3921. Vous-même, vous êtes infirmière, vous avez entendu,
oui.
Gérard Carrérou et Charles Villeneuve nous ont rappelé, réduire au maximum le passage des personnes âgées aux urgences, généraliser l'admission directe, étendre la vidéo-assistance entre les EHPAD et les SAMU. Gérard Carrérou était dubitatif. Qu'est-ce que vous dites, vous, de ces mesures aujourd'hui ?
Moi, je dis déjà que Agnès Buzyn aurait dû se rendre dans un CH ou un CHU qui était en grève et non pas à Poitiers, qui fait partie des hôpitaux qui ne sont pas en grève, pour commencer. Il y en a plus de 200 qui sont en grève, donc je pense qu'elle avait un large choix.
Évidemment.
Et on reste dans un métier humain, donc déjà, la téléassistance je suis un peu dubitative aussi. Il n'y a pas que des personnes âgées aux urgences. Moi, je suis dans un service de soins palliatifs tout l'été. Les urgences nous ont appelés tellement ils étaient débordés et même avec des patients, des jeunes patients qui voulaient nous envoyer, qui restent 7 heures, 8 heures, 10 heures sur des brancards. Ils sont exténués. Il y a des démissions de médecins qui n'en peuvent plus. Là, on ne fait rien pour garder son personnel dans le service des urgences et dans les autres services. Les moyens ne sont plus bons, que ce soit les moyens techniques, les moyens matériels. Les hôpitaux sont trop vieux. Enfin, il y a trop de choses. Là, pour moi, il y a rien.
Vous, quand vous faites une journée de travail, c'est une journée de combien d'heures en moyenne ?
Alors, nous, on a différents horaires. On a des journées de 10 heures ou de 8 heures, que ce soit de jour ou de nuit, ça dépend.
Et avec combien de patients vous avez...
Sur un service de soins palliatifs, on est à 13 patients, mais aujourd'hui, on en est quand même rendu à se dire, parce qu'on a beaucoup de passages de gens qui font des entrées-sorties, qui décèdent très rapidement, qui nous sont envoyés des urgences parce que justement, ils ne veulent pas qu'ils décèdent aux urgences sur un brancard. Et aujourd'hui, on en est quand même rendu à se dire, mais que ce soit aux soins palliatifs ou ailleurs, aujourd'hui, j'ai pris un peu plus de temps avec cette personne-là. Demain, je devrais en prendre un peu moins parce que j'ai trop de travail. Il faut quand même que je puisse m'occuper de tous mes patients et c'est pas normal. On devrait pouvoir se dire, aujourd'hui j'ai le temps pour vous, mais j'aurai aussi le temps demain.
Madame, est-ce que je peux vous poser une question ?
Oui.
Qu'est-ce que vous pensez de cette possibilité ouverte aujourd'hui par la ministre d'une nouvelle catégorie, disons, qui existe déjà dans un certain nombre de pays européens ou aux États-Unis, entre les infirmières et les médecins, une catégorie de, disons, pas de super infirmières, mais d'infirmières ayant la possibilité de faire un certain nombre d'actes auxquels elle n'a pas le droit de faire actuellement.
Avec des formations.
Et avec une formation, un diplôme et éventuellement, bien sûr, un meilleur salaire. Ouais. Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que vous pensez que c'est une piste intéressante à ouvrir ?
Alors, ça pourrait être faisable, mais pour ça, il faudrait déjà aussi qu'on ait aussi bien infirmier que médecin, moins d'administratif, parce que ça nous prend énormément de temps. Et du coup, déjà, rien que sur les soins techniques sur lesquels on est habilité, il y a des fois, on n'a pas le temps de le faire, quoi. Et c'est ça qui est problématique aussi, c'est que l'administratif nous demande énormément de temps. Et c'est, en soi, c'est pas une bêtise, puisqu'il y a bien qui sont les infirmiers anesthésistes, les infirmières puéricultrices. Enfin, voilà, y a, je pense qu'il peut y avoir des solutions là-dessus, mais ça fait 25 ans que ça n'a pas été revu, tout ça, et je pense qu'il y a un gros dossier qui, effectivement, comme ça a été dit tout à l'heure, ça ne peut pas se résoudre d'un coup de baguette magique, parce que voilà, c'est trop compliqué, mais je pense qu'il y a des choses à faire.
Merci beaucoup, Clémence, en tout cas. Merci, vous nous appeliez depuis Saint-Malo, des gouvernements qui demandent toujours de faire plus avec moins, finalement, c'est ce qu'on entend dans la bouche de Clémence.
Oui, ce qui est frappant en entendant tous ces témoignages, en comprenant chaque jour l'urgence, je dirais, de ce dossier, c'est que s'il y a un foyer possible pour relancer la colère, éventuellement une crise sociale nouvelle, c'est bien ce dossier des urgences, parce que c'est là où le rapport à l'égalité entre tous les Français d'accès aux soins se matérialise et est de plus en plus justement criant.
Charles, mais c'est sur ce point que le Premier ministre a fait une erreur dans l'histoire des femmes aujourd'hui. Il a annoncé un certain nombre de mesures intéressantes, mais il a dit à un moment donné, ça c'est une grosse erreur, il a dit mais l'argent c'est pas l'essentiel.
Alors évidemment, que là, les moyens sont évidemment...
Évidemment, on sait que les moyens... Merci. Mais c'est vrai aussi pour les infirmières et les médecins.
Non, mais elle a fait une remarque très importante pour ceux qui sont habitués ou qui ont fait quelques séjours dans les hôpitaux, c'est les actes administratifs. Ça submerge tout le personnel.
Merci à tous les trois. Lundi, elle recevra tous les acteurs du secteur et elle a promis d'autres annonces la semaine prochaine, Agnès Buzyn. Merci beaucoup à tous les trois.
Vous écoutez Nathalie Lévy.
Dans un instant, le journal de 19h de Sébastien Krebs à la une de l'actualité ce soir. On revient bien entendu sur ces annonces, notamment pour les urgences, mais aussi les entrées au gouvernement. C'est officiel, Jean-Paul Delevoye, Jean-Baptiste Desbarry.
Et votre grand journal du soir sur Europe 1 jusqu'à 20h. Jusqu'à 20h, vous écoutez Nathalie Lévy.
Et après le journal de 19h, l'invité politique de David Doucan, le député européen Rassemblement National, Nicolas Bay, sera dans ce studio. 19h20 demain en France, on est dans une région. 19h25 demain dans le monde, les féminicides à la une de l'actualité en France et ailleurs. Comment ça se passe avec des chiffres ? Didier François Brejoint. 19h30, les taux immobiliers sont en berne, il faut acheter, on vous donne tous les conseils. 19h45, allez prenez votre zapette, c'est la rentrée télé. Philippe Vandel, entre autres, sera dans ce studio.
Et vous pouvez bien sûr réagir, n'hésitez pas à poser vos questions, vos réactions. 39-20 50 centimes la minute, mais aussi sur les réseaux sociaux. On vous lit sur Twitter avec le hashtag Europe 1. Vous écoutez Europe 1, il est 19h. Nathalie Lévy, Sébastien Krebs.
Il y a plus de 100 femmes qui ont été assassinées depuis le début de l'année. On n'a pas le temps d'attendre 2020 pour faire des audits et 2021 pour mettre en place des mesures.
Des mesures loin d'être à la hauteur. Les associations féministes pas du tout convaincues ce soir. Après l'ouverture du Grenelle des violences conjugales, le gouvernement annonce 5 millions d'euros pour créer 1000 nouvelles places d'hébergement. Le détail dans un instant.
Aménagement confirmé au gouvernement, Jean-Paul Delevoye entre comme haut-commissaire chargé des retraites. Jean-Baptiste Djebbari devient lui secrétaire d'État aux transports.
Nous irons à Strasbourg dans un instant. La piste criminelle retenue après l'incendie d'un HLM qui a coûté la vie à un enfant de 11 ans la nuit dernière.
Et puis c'est un record absolu, l'expo la plus fréquentée de tous les temps. Ça se passe à Paris, 1 300 000 visiteurs ont parcouru l'exposition tout en camon. Mais c'est pas fini.
La tendance météo, Anissa ?
Le retour de la pluie demain et c'est une bonne nouvelle pour nos terres. Du côté de l'ouest, la perturbation arrive dès demain matin.
Europe 1.
Plusieurs mesures à retenir ce soir après l'ouverture du Grenelle des violences conjugales, mesure annoncée par le Premier ministre depuis Matignon au moment de lancer 3 mois de discussion avec les associations, les défenseurs de victimes, mais aussi des magistrats et des policiers. D'abord un plan de 5 millions d'euros pour créer 1000 nouvelles places d'hébergement, un audit aussi mené dans les commissariats pour évaluer l'accueil et l'écoute des victimes, la possibilité de déposer plainte à l'hôpital, et l'éloignement des conjoints par bracelet électronique.
Et les premières réactions sont plus que mitigées au sein des associations qui accompagnent les victimes et chez les militantes féministes. Écoutez, ce soir, Caroline Dehas, porte-parole du collectif Nous Toutes.
On est venu, on a vu, on est hyper déçus. On ne peut pas éduquer l'ensemble des enfants de ce pays à la non-violence. On ne peut pas créer le nombre de places d'hébergement spécialisées nécessaires. On ne peut pas former l'ensemble des professionnels sans des moyens. Et aujourd'hui, il n'y a pas de moyens annoncés. Donc franchement, les annonces, elles sont décevantes. On espère que c'était simplement les annonces du lancement. Et on se dit peut-être qu'ils vont réussir à se rattraper dans les semaines qui viennent. Mais il y a plus de 100 femmes qui ont été assassinées depuis le début de l'année. On n'a pas le temps d'attendre 2020 pour faire des audits et 2021 pour mettre en place des mesures. Pourquoi on a besoin d'un audit pour savoir qu'il y a des problèmes en commissariat et gendarmerie? On sait qu'il y a des problèmes. Il faut former les professionnels.
Caroline Dehas au micro d'Ève Roger.
Europe 1, vous l'annoncez dès ce matin, c'est désormais officiel, communiqué à l'instant de l'Élysée. Jean-Paul Delevoye fait son entrée au gouvernement, non pas comme ministre, mais comme haut-commissaire en charge de la réforme des retraites. Il travaillait déjà sur ce dossier depuis des mois, puisqu'il est l'auteur du rapport commandé par Emmanuel Macron pour préparer cette réforme.
Et puis le jeune député macroniste Jean-Baptiste Djebbari, 37 ans, devient lui secrétaire d'État aux transports pour épauler Elisabeth Borne. Il avait été le rapporteur de la loi de modernisation de la SNCF.
Nous allons à présent à Strasbourg, où l'enquête avance ce soir après le terrible incendie de la nuit dernière à Schiltigheim. Un enfant de 11 ans est mort et plusieurs membres de sa famille sont blessés. Arthur Mbaché, vous êtes sur place pour Europe 1. Vous suivez cette enquête. Un premier suspect interpellé la nuit dernière a passé une partie de la journée en garde à vue. Il a finalement été relâché alors qu'un autre homme est à présent mis en cause.
Oui, un jeune homme de 22 ans que les policiers ici connaissent malheureusement très bien pour des affaires de violence notamment. Il a été interpellé vers 10h30 ce matin et il a toutes les chances d'être cette silhouette avec capuche sur la tête qui apparaît sur les images des 4 caméras de vidéosurveillance qui sont installées dans la cour de l'immeuble qui a pris feu. Le responsable du bailleur social, Pierre Staub, les a vues, ces images.
C'est un incendie criminel, ça ne fait pas l'ombre d'un doute. Il y avait des allées-venues dans le laps de temps où nous pensons que l'incendie a été produit. On voit peu le visage, mais comme il y a 4 caméras, on voit quand même des choses.
Alors selon des informations qu'on vient tout juste de me transmettre, il n'y aurait pas de motivation politique derrière cet incendie. La question se posait, puisque les victimes de l'incendie de cette nuit, c'est une famille qui vient de Centrafrique et qu'il y a eu une série d'incendies ici à Schiltigheim depuis 2 semaines, avec plusieurs fois des victimes d'origine étrangère et même une revendication clairement raciste, pour le coup, taguée sur la mairie d'un village alsacien. En fait, apparemment, pour la nuit dernière, le suspect avait bu beaucoup. Les policiers le connaissent aussi pour ça d'ailleurs. Au milieu de la nuit, il se balade dans les rues du centre historique de Schiltigheim. Il a un briquet, il brûle une première poubelle, il allume, me dit-on, ce qu'il trouve, jusqu'à ce feu fatal dans cet immeuble de la rue principale. Alors, est-ce que c'est lui qui est responsable également de la série d'incendies ici depuis 15 jours? Trop tôt pour le dire. Les enquêteurs travaillent évidemment là-dessus.
Arthur Mbaché, correspondant d'Europe 1 à Strasbourg. Merci.
Situation très tendue ce soir en Grande-Bretagne. Le Premier ministre Boris Johnson n'a plus de majorité.
Oui, elle était courte, cette majorité. Il a suffi qu'un député fasse savoir qu'il quittait le camp conservateur. C'est la rentrée des parlementaires britanniques. En ce moment même, en plein brouillard sur le Brexit, le Premier ministre voulait les faire taire, ces députés, eh bien, ils s'apprêtent à voter un texte pour tenter de lui forcer la main et pour tenter d'empêcher une sortie de l'Union européenne sans accord.
On vous racontait cette histoire à 18h si vous étiez avec nous. Voici donc, comme promis, le coup de gueule du maire de Saint-Gervais.
Ouais, ça se passe au pied du Mont-Blanc, en Haute-Savoie. Le maire est en colère. Il a écrit à Emmanuel Macron pour dénoncer les incivilités qui se multiplient dans le massif du Mont-Blanc. Dernière en date, un alpiniste britannique qui a eu cette curieuse idée de monter avec une machine de musculation, un rameur, pour faire son sport à 4000 mètres d'altitude. Machine qu'il n'est évidemment pas parvenu à redescendre, trop fatigué. Du coup, il l'a laissé là-haut. Écoutez Jean-Marc Payex.
On en a assez d'avoir des hurluberlus de ce type-là qui font n'importe quoi. Le Mont-Blanc, ça fait briller la France. Ça fait briller l'Europe. Et le Mont-Blanc, c'est une affaire uniquement d'alpinisme. Mais c'est aujourd'hui une poubelle et c'est le lieu où on y fait n'importe quelle incivilité. Aujourd'hui, le Mont-Blanc est un site classé, c'est-à-dire c'est protégé par la réglementation du site classé, c'est-à-dire protégé par rien. On n'a aucun moyen d'empêcher quelqu'un de monter avec une otarie sur le Mont-Blanc pour y faire une démonstration de jonglage et de ballon. Donc, je demande au président de la République de choisir. Soit on supprime la protection du Mont-Blanc et ce n'est plus un site classé, et on y fait n'importe quoi, soit on écrit tout simplement que le Mont-Blanc est réservé à partir d'une certaine altitude à l'activité d'alpinisme, et c'est tout.
Jean-Marc Payex, le maire de Saint-Gervais en Haute-Savoie, joint par Caroline Baudry. C'est pas un défi à relever, l'histoire de l'otarie. Hein.
On saluera son idée. Hein. Jamais une exposition n'avait accueilli autant de visiteurs en France. C'est un record absolu que nous voulions saluer ce soir. 1 300 000 personnes ont parcouru l'expo tout en camion. Vous l'avez vu, Sébastien ?
Je l'ai vu. Elle est magnifique depuis son ouverture le 23 mars. Donc 1 300 000. Le trésor du Pharaon Expo, événement qui est en tournée mondiale avec 150 objets issus de son tombeau, tout en camion d'ailleurs, qui détrône Toutankhamon, puisque le record à ce jour était toujours détenu par l'expo précédente en 1967. Quelques paroles de visiteurs ce soir, on les écoute au micro de Jean-Gabriel Bourgeois.
Toutankhamon, c'est magique, c'est la découverte. Le travail des sculptures, de l'or, des pierres.
Quand on se dit qu'ils avaient cette culture en 1300 avant Jésus-Christ, on se dit quelque part qu'on n'a rien inventé. Et comment en plus ils ont influencé notre culture également, je trouve ça incroyable.
Quand on regarde aujourd'hui la crosse, on rentre dans l'église catholique. C'est plutôt bien expliqué pour quelqu'un de novice comme moi. Donc les bijoux qui étaient sur le tombeau, c'est quelque chose qui nous a marqué, on s'est arrêté assez longtemps dessus.
Qu'est-ce qu'ils ont spécifique ces bijoux?
Le fait que ce soit les bijoux qui étaient directement sur le corps, nous, ça nous a marqué.
On vient de la région Lorraine. Pour nous, c'était l'occasion d'aller sur Paris et puis de voir Toutankhamon.
Il y a quelques jours, finalement, de la fin, les enfants sont rentrés à l'école. Donc, place nette pour les adultes.
Voilà, propos recueillis par Jean-Gabriel Bourgeois. La fin, c'est dans 3 semaines, hein, le 22 septembre. D'ici là, c'est ouvert jusqu'à 22h30 le soir et même minuit le week-end. Et puis, vous connaissez Banksy, cet artiste des rues, vous savez, à l'identité secrète, la toile qui s'était auto-détruite, c'était lui. Il avait laissé l'un de ses dessins qui représentait un petit rat à l'arrière d'un panneau tout près de Beaubourg à Paris. Eh bien, le panneau a disparu, découpé, volé. Et le pire, c'est que personne ne peut porter plainte, même pas le musée qui est voisin, qui avait tenté de le protéger. Voilà, c'est... cet art de la rue, ce street art qui n'appartient donc qu'à la rue.
Évidemment.
C'était le journal qui vaut des millions hein, quand
ouais,
c'est revendu derrière.
C'était le journal de Sébastien Krebs. Merci à vous.
À demain.
Enfin, profitez d'un temps toujours clément avec Rénoval, Véranda et Abri de Piscine. Rénoval vous présente la météo.
Et la météo avec vous, Anissa.
Alors demain, la journée va débuter, Nathalie, dans la fraîcheur, avec 8 à 13 degrés dans la moitié nord. Les températures vont grimper demain après-midi. 22 à La Rochelle, 24 à Paris, 29 à Nice et Toulouse et 34 degrés à Nîmes. Alors il y a une perturbation qui arrive demain matin par l'ouest. C'est une bonne nouvelle pour nos terres, c'est une bonne nouvelle pour nos agriculteurs parce que ces nuages de l'ouest vont nous apporter de la pluie sur la Bretagne, la Normandie, les côtes de la Manche et le golfe du Morbihan. Mais ce mauvais temps ne va pas durer avec, dès l'après-midi, le retour du soleil. Cette perturbation, elle va se déplacer vers l'est à la mi-journée. La pluie va donc tomber sur le nord, le bassin parisien, la Sarthe, la Mayenne et les Pays de la Loire. Demain après-midi, il y aura des rafales de vent aussi, allant jusqu'à 50 km/h. Partout ailleurs, dans l'est, l'Auvergne, le Limousin, la région lyonnaise, le littoral méditerranéen, le sud-ouest, la Corse, bah là, c'est grand soleil pour tout le monde.
Bon, mais c'est quand même assez varié, je note. Hein.
Oui, il y en a pour tous les goûts.
Merci.
Et votre grand journal du soir jusqu'à 20h avec Nathalie Lévy.
Il est dans ce studio à mes côtés, David Doucan. Bonsoir David.
Bonsoir Nathalie.
Votre invité politique va s'installer dans un instant. Qui est-il ce soir?
C'est Nicolas Bay, eurodéputé du Rassemblement National. On va parler avec lui de cette lutte
lutte contre les violences conjugales. Est-ce que le Rassemblement national a des propositions précises? On va lui poser la question. Et puis, vous avez vu ce qui se passe en Angleterre, le Brexit, la situation de Boris Johnson. Son parti a toujours été favorable au Brexit. Est-ce qu'il ne commence pas à changer d'avis?
Merci David, on vous attend dans un petit instant avec Nicolas B.
Votre grand journal du soir, jusqu'à 20h sur Europe 1. Votre grand journal du soir se poursuit, Nathalie Lévy, avec l'interview politique.
Et vous recevez ce soir David Doucan dans ce studio, Nicolas Bay, le député européen Rassemblement National.
Bonsoir Nicolas Bay.
Bonsoir.
Le Premier ministre Édouard Philippe a annoncé toute une série de mesures d'urgence pour lutter contre les violences conjugales. Je rappelle que depuis seulement le début de l'année, janvier 2019, 101 femmes ont été tuées par leur conjoint ou leur ex-conjoint. 1000 places d'hébergement vont être créées, des procureurs référents spécialisés, la mise en place de bracelets anti-rapprochement, en tout cas facilitation pour mettre en place ces bracelets, et la généralisation de la possibilité de porter plainte à l'hôpital. Nicolas Bay, sur un dossier comme celui-ci, est-ce que vous pouvez soutenir le gouvernement ?
Oui, bien sûr, il y a un certain nombre de mesures que nous pouvons soutenir sans difficulté. C'est un vrai sujet, c'est un sujet grave. Il y a une recrudescence en effet importante de cette forme de violence, mais aussi d'une manière générale, de toutes les formes de violence, de délinquance, de criminalité dans notre pays. Ça nécessite une réponse très forte. Moi, ce que je crains, c'est que ce soit essentiellement de la communication. On fait un Grenelle sur cette question, mais qu'ensuite, il n'y ait pas les moyens. Et les moyens, c'est les moyens de la police, c'est les moyens de la justice. Aujourd'hui, vous avez de très nombreuses injonctions judiciaires pour empêcher une personne d'être en contact avec une autre personne parce qu'elle présente un risque pour sa sécurité. Mais ces injonctions, souvent, elles ne sont pas respectées. Lorsqu'elles ne sont pas respectées, elles ne sont pas sanctionnées. Et finalement, on a un État qui est de plus en plus faible. Et quand l'État est faible, qu'il n'assume pas ses missions fondamentales, notamment ses missions régaliennes, eh bien, ce sont les plus fragiles qui en sont les victimes.
Donc, les
et
moyens...
parmi les plus vulnérables, eh bien, il y a évidemment les femmes qui peuvent se retrouver dans des situations, être sous les, avoir une situation de risque par rapport à un conjoint ou un ex-conjoint.
Pour vous, c'est l'aspect budgétaire, et le budget va bientôt être examiné au Parlement pour l'année 2020. Pour vous, c'est cet aspect-là, en réalité, c'est au moment du budget qu'on verra si la France, le gouvernement, met vraiment les moyens sur cette question.
Parce que si on pose la question de la délinquance et de la criminalité en France, c'est le réarmement non seulement matériel, humain, et donc des budgets, c'est vrai, mais aussi le réarmement moral de la police, de la justice, faire en sorte qu'il y ait une vraie chaîne de la sanction, qu'il y ait une vraie dissuasion contre la délinquance. On voit aujourd'hui un ensauvagement de la société française.
Mais là, vous passez à un sujet plus vaste qui est celui de la délinquance. Et c'est intéressant parce que, en fait, quand on regarde le programme de Marine Le Pen en 2017, il y a une proposition sur 144 qui concerne la protection des femmes. La question des femmes. Est-ce que le Rassemblement national travaille sur cette question spécifique qui est celle de l'égalité femmes-hommes, de la protection des femmes face aux violences?
Mais bien sûr, mais
nous
travaillons sur les violences, la délinquance dans tous les domaines. On ne va pas se limiter à la violence dont les femmes sont victimes.
Sans s'y limiter, vous reconnaissez que c'est un sujet spécifique.
Mais bien sûr, non, mais c'est spécifique.
Et donc,
parce
qu'il faut s'en occuper spécifiquement.
Il y a des formes de délinquance qui sont spécifiques, bien sûr, il faut les traiter. Mais il y a un problème de fond, c'est qu'on fait des annonces en France, c'est la grande spécialité, mais souvent, elles ne se traduisent pas dans les faits, faute de moyens mobilisés et de volonté politique.
Donc,
c'est là-dessus que nous attendons le gouvernement.
Sur le budget. Parlons d'un tout autre sujet. Vous avez passé quelques jours en Syrie récemment, à Damas. Vous avez rencontré Bachar el-Assad. Vous étiez avec votre collègue Thierry Mariani, lui aussi eurodéputé Rassemblement National. Ça pose question, comment peut-on se déclarer patriote? C'est votre cas, vous le déclarez très fréquemment. Et en même temps, s'afficher avec un dictateur qui est considéré par la France comme un adversaire. Nous ne sommes pas, la France, alliés de Bachar el-Assad. Et même, nous avons rompu les relations et nous sommes pour un régime de sanctions.
Non mais ça, c'est
comment peut-on être patriote et être sur une ligne qui est différente de celle de son pays?
La position du gouvernement français actuel, c'est d'arrêter les relations diplomatiques et de multiplier les sanctions, notamment économiques, contre la Syrie.
C'est la position de la France.
Non,
c'est pas la position
d'un
gouvernement.
C'est la position du gouvernement français. Nous, on a une position différente qui est de dire il y a un certain nombre de pouvoirs, de régimes dans le monde avec lesquels on n'est pas forcément d'accord, qui peuvent susciter même de la réprobation sur le plan moral, mais avec qui il est nécessaire, pour des raisons d'intérêt supérieur de notre pays, de parler.
Lesquelles?
Je vous donne un exemple concret. Emmanuel Macron, lors du G7 à Biarritz, il a fait venir le gouvernement iranien.
Oui, le ministre des Affaires étrangères.
Voilà.
Oui.
Or, Je pense que Emmanuel Macron ne soutient pas la politique qui est menée, en politique intérieure notamment, par le gouvernement iranien. Et ce serait lui faire un très mauvais procès que de faire croire qu'il soutient la politique intérieure. Bon, eh bien, c'est la même chose. Vous savez, il y a quelques années, nous, on a dit qu'il ne faut pas faire la guerre froide avec la Russie. Et on nous a aussitôt accusé d'être inféodés à la Russie. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on constate ? Que toutes les chancelleries européennes, qu'Emmanuel Macron en tête, sont obligées de renouer, de manière un peu chaotique, d'ailleurs un peu laborieuse, la relation avec un pays qui est une grande puissance avec laquelle on doit pouvoir parler sur la scène internationale. En Syrie, quelle est la situation ? On nous avait dit, depuis des années, le régime de Damas va s'effondrer. Qu'est-ce qu'on a vu ces dernières années ? Eh bien, on a vu exactement le contraire. Oui. Ils sont en passe d'obtenir une victoire militaire contre les djihadistes, et ça correspond à nos intérêts.
Pas parce seulement que... contre les djihadistes. 370 000 morts depuis 2011. Oui. Bachar al-Assad massacre son peuple.
Non,
vous le savez.
C'est pas vrai. Ceux qui sont massacrés, le peuple syrien est massacré par les djihadistes, par l'État islamique, par le front al-Nusra.
Bachar al-Assad ne fait pas dans le détail.
Non, mais quand on fait la guerre, vous savez, c'est souvent, ça crée souvent des situations dramatiques et les civils en souffrent terriblement. Mais enfin, les États-Unis ont fait des frappes massives, des frappes aériennes en particulier en Irak, qui ont aussi causé énormément de morts civiles. Donc, ce qu'il faut, c'est voir la situation en Syrie. La Syrie peut être un vrai pôle de stabilité dans cette région. Ça peut sembler un peu paradoxal de dire ça aujourd'hui, mais c'est une réalité. Il faut être capable de parler avec tout le monde. Vous savez, moi, ces dernières années, j'étais au Liban, j'étais en Israël. On ne se limite pas à une discussion avec la Syrie. On veut faire en sorte que les intérêts de la France soient défendus, les intérêts des nations européennes d'une manière générale. Et ça passe aujourd'hui par l'établissement des relations diplomatiques avec la Syrie.
On vous a entendu sur ce point. Pendant ce séjour, vous étiez à un moment donné dans un restaurant de Sednaya avec votre collègue Thierry Mariani et vous avez posté une photo sur Internet où on vous voit avec une bouteille de Côte du Rhône et où vous vous réjouissez que les viticulteurs français aient pu, malgré les sanctions, exporter cette bouteille à Syrie. Sednaya, c'est l'endroit où se situe l'une des prisons les plus terribles du monde entier, où des crimes contre l'humanité ont été commis. Amnesty International est très clair là-dessus. Est-ce que des exécutions de masse dans cette prison de Sednaya, elle est connue. Est-ce que vous regrettez cette photo, cette mise en scène ?
Non, je crois que cette photo a été anodine. Elle traitait d'un sujet qui est la question des sanctions économiques. Vous savez, aujourd'hui, les sanctions internationales contre la Syrie, c'est aussi les sanctions contre les médicaments, l'embargo sur les médicaments. Et ça, c'est les populations civiles qui en souffrent. Et puis Sednaya, où j'étais, en effet, c'est d'abord un petit village chrétien, orthodoxe, martyr du djihadisme, qui a terriblement souffert et c'est pour ça que nous étions et que nous avons rencontré les autorités sur place.
Les crimes des djihadistes vous posent problème, ceux de Bachar el-Assad vous laissent indifférent.
C'est pas la question, je suis pas en train de dire qu'on soutient le pouvoir syrien, c'est pas la question. Nous disons simplement que l'action qu'il mène contre les groupes djihadistes en Syrie correspond à nos intérêts et on doit rétablir le dialogue. C'est un pays important qui a une position stratégique et sur le plan géopolitique ça correspond aux intérêts de la France.
Partons de Damas et rendons-nous à Londres. Vous avez vu ce qui se passe en ce moment. Boris Johnson a perdu la majorité absolue dans son Parlement. Il veut le suspendre. L'ONU, aujourd'hui, a fait ses calculs et annonce qu'en cas de Brexit dur, c'est-à-dire sans accord, 16 milliards de dollars en moins d'exportation pour le Royaume-Uni dans la minute. Est-ce que vous considérez toujours, comme c'était le cas à l'époque, au moment du référendum, que le Brexit était une bonne idée ?
Mais en fait, c'est la question n'est pas de savoir si c'est une bonne idée. La question est de savoir si on respecte ou pas la volonté du peuple britannique. Ça fait 3 ans. Un peu plus de 3 ans maintenant, que les Britanniques ont décidé souverainement, par référendum, à la majorité absolue, de quitter l'Union européenne. C'est leur choix. Ce n'est pas forcément le choix que nous défendons. Nous voulons changer l'Europe de l'intérieur, de fond en comble, du sol au plafond, une Europe plus démocratique. Mais eux, ils ont fait un autre choix. On doit respecter ce choix. Or, qu'est-ce qui s'est passé ? Il y a eu une négociation entre Theresa May et Michel Barnier. L'un et l'autre étaient contre le Brexit. Le résultat, c'est un texte qui est inacceptable à la Chambre des communes, inacceptable pour les Britanniques. On arrive à une situation de blocage. Parce que le texte en question, il prévoyait, avec le système de backstop sur la frontière irlandaise, de maintenir en pratique la Grande-Bretagne pendant au moins 3 ans supplémentaires dans l'Union européenne, c'est-à-dire en clair, en 2016 ils votent pour sortir de l'Union européenne, en 2019 on leur dit d'élire de nouveaux députés européens et qu'ils sont encore dans tous les dispositifs de l'Union européenne et continuent à payer 6 milliards jusqu'en 2022.
On manque de temps, Nicolas Bay, on va conclure, donc vous devez me répondre très rapidement. Les élections municipales approchent, l'objectif du Front National, du Rassemblement National, combien de villes ? Aujourd'hui, vous en avez 11.
C'est d'abord de conserver, bien sûr, et je pense que ce ne sera pas une difficulté parce qu'on a des bons bilans, nos villes, c'est d'en gagner des nouvelles.
Combien ?
Et je pense que c'est possible. Non, je ne vais pas faire un pronostic chiffré.
Vous êtes un spécialiste de la carte électorale.
Je pense que nous pouvons en gagner un certain nombre. Et puis, nous pouvons aussi avoir beaucoup renforcé, consolidé notre implantation
vous
locale.
Vous ne prenez pas de risque.
Pour être à la hauteur de ce que les Français attendent de nous.
Vous ne prenez pas le risque. Merci Nicolas Bay d'avoir
Nicolas
été Bay, avec nous.
Votre invité ce soir, David Doucan, député européen Rassemblement National. Merci à tous les deux.
Europe 1.
On va se retrouver, Nissa.
Oui, dans un instant. La suite du programme, c'est quoi, Nathalie?
19h30, deux questions. Taux d'intérêt au plus bas, achetons notre bien. En tout cas, on vous donne tous les conseils. 19h45, la rentrée télé, les Access qui ont repris hier soir. Qu'est-ce que vous avez regardé, vous?
39-21, venez nous le dire. Vous écoutez Nathalie Lévy jusqu'à 20h. La suite de votre grand journal du soir sur Europe 1, Nathalie Lévy.
Et tous les soirs, on vous l'a promis, depuis la rentrée, on va au plus près de vous, là où l'actualité va se jouer demain. On va dans le Nord ce soir. Bonsoir Lionel Gougelot. Bonsoir Lionel Gougelot.
Oui, bonsoir Nathalie, est-ce que vous m'entendez?
Ça y est, cette fois je vous entends. Lionel, c'est demain que le Conseil d'État doit se prononcer sur la révocation du maire de la petite ville d'Edin, qui se trouve dans le Pas-de-Calais. Mm-hmm. On vous en parlait il y a quelques jours. Celui qui avait été élu plus jeune maire de France à 22 ans en 2014 a été révoqué en Conseil des ministres. C'est une procédure extrêmement rare.
Oui, alors d'abord il faut rappeler pourquoi ce jeune a été révoqué, ce jeune élu a été révoqué. On lui reproche toute une série d'infractions dans l'exercice de ses fonctions, d'avoir confondu l'argent public et son argent de poche. Par exemple, l'achat de 2 revolvers sur le budget de la commune, prise illégale d'intérêt également, détournement de fonds publics, favoritisme quand il a fait attribuer la gestion de logement de la ville à l'agence immobilière dirigée par sa mère. Il avait pour cela transmis en préfecture une fausse délibération du conseil municipal. Bref, l'étudiant de devenu maire, semble avoir tout oublié de ses cours de droit et depuis plusieurs mois, effectivement, il accumule les mises en examen.
Effectivement, il n'y est pas allé avec le dos de la cuillère. Il n'a pas encore été jugé pour autant, pour ses faits.
Non. Alors, c'est justement la raison pour laquelle il conteste sa révocation. Il estime qu'elle le sanctionne alors que la justice ne s'est pas encore prononcée. Il doit d'ailleurs comparaître devant le tribunal correctionnel le 12 septembre prochain. Mmh. C'est pourquoi donc il a saisi en référé le Conseil d'État pour faire annuler le décret de révocation. Ses défenseurs font valoir qu'il y a là atteinte à la présomption d'innocence dans la mesure où Stéphane Sieskowski-Samier n'est pas condamné, mais du côté du gouvernement, on justifie cette révocation par les manquements graves et répétés de l'élu qui mettent à mal l'intérêt public. D'ailleurs, ce jeudi, un conseil municipal doit se réunir pour désigner un nouveau maire.
Alors, est-ce qu'on a, Lionel, des nouvelles du maire révoqué?
Non, il est toujours
aux abonnés
invisible.
Absents.
Oui, c'est un peu ça. La dernière fois qu'il a donné signe de vie, figurez-vous, c'était sur Facebook. Ouais. Au moment de l'annonce de sa révocation, il avait publié une photo de vacances aux Bahamas avec ce commentaire tout touché mais pas coulé. Alors évidemment, compte tenu de l'actualité, aujourd'hui, ça prend une connotation particulière, mais c'est vrai, c'était il y a 2 semaines. On ne sait pas d'ailleurs si c'était effectivement aux Bahamas à ce moment précis. Ce qui est sûr, c'est que la préfecture du Pas-de-Calais a moyennement apprécié la provocation. Un dernier mot, Nathalie, pour vous signaler que s'il est révoqué de son mandat de maire, Stéphane Sieskowski-Samier restera conseiller municipal et il sera donc peut-être présent jeudi pour l'élection du nouveau maire d'Edin.
Eh bien, dis donc, à suivre donc avec vous nous racontez évidemment. Lionel Gougelot, merci à vous en direct depuis le Nord. Merci.
Bonsoir.
Et la suite de votre grand journal du soir, Nathalie Lévy.
C'est maintenant votre rendez-vous avec l'actualité dans le monde demain. C'est tous les soirs avec Didier François. En fait, on prend de la hauteur chaque soir, grâce à vous, Didier, tout simplement. Voilà, merci. On s'élève. Et évidemment, on a suivi de très près avec nos invités, toute la journée aussi sur Europe 1, ce Grenelle des violences conjugales lancé par le gouvernement. Nous avons voulu regarder avec vous quelle est en fait la situation des femmes dans le reste du monde. Pas pour relativiser ni pour excuser, mais bien pour souligner l'ampleur du problème, du phénomène. Même.
Oui, parce que les chiffres ici sont déjà effrayants. Une Française assassinée tous les 3 jours par son conjoint, son ex ou un membre de sa famille. 121 féminicides recensés en 2018 par le ministère de l'Intérieur. Et malheureusement, la centième qui est découverte ce week-end. Mais à l'échelle de la planète, c'est carrément affolant. 84 000 femmes sont tuées chaque année et plus d'une sur deux, 58%, est assassinée par un proche. On parle là de 50 000 victimes, c'est l'équivalent du nombre de morts chaque année dans la guerre en Syrie.
C'est épouvantable, ça veut dire que face au meurtre, une femme est plus en danger, quoi, chez elle, à son domicile, que dans la rue, c'est ça?
Oui, c'est ça qui est terrible avec le féminicide. 2 fois sur 3, l'assassin, c'est le compagnon. 30 000 cas par an. Et les 20 000 restants, c'est un père, un frère ou un oncle. Au total, dans le monde, 6 femmes sont tuées toutes les heures par un intime.
La cellule familiale, c'est ce qu'elle pointe beaucoup aujourd'hui, ces femmes qui sont victimes. En comparaison, un homme est tué par sa compagne tous les 13 jours.
Oui, bien même dans ce cas-là, c'est souvent une réaction de légitime défense face à des violences conjugales répétées, rarement préméditées, alors que les études démontrent l'intentionnalité dans 95% des cas de féminicide faits par des hommes.
Les raisons, Didier, de ces féminicides, là aussi dans le monde.
Alors, l'étude la plus complète, elle date de l'an dernier, réalisée par l'ONU. Elle pointe deux grandes tendances, ce qu'on appelle les crimes d'honneur, environ 5000 par an, souvent commis par les familles, surtout au Proche-Orient et dans le sous-continent indien. Mais ce qui est loin d'être aussi meurtrier que la jalousie possessive des conjoints, elle frappe dans tous les pays, dans tous les milieux, surtout lors des séparations et des grossesses. J'ai découvert ça, sachant que c'est particulièrement vrai en Afrique et en Amérique latine, avec respectivement 11 000 et 6 000 meurtres chaque année. C'est 3 fois et 2 fois plus que les 3 000 féminicides par an en Europe.
Merci beaucoup Didier François. On a parlé évidemment de ces féminicides en France et avec vous dans le monde. Donc le rappel des titres dans quelques instants, Anissa.
Oui, bien sûr. Et puis à 19h30, vous pouvez réagir sur Europe 1, 39-21.
Pour acheter votre logement, les taux immobiliers sont bas, donc on vous dit tout. Et puis la petite lucarne, qu'y a-t-il de neuf ? 19h45.
Vous écoutez votre grand journal du soir sur Europe 1 jusqu'à 20h. Europe 1. À 19h30 sur Europe 1, votre grand journal du soir, Nathalie Lévy.
Le rappel des titres avec vous, Sébastien Krebs.
De nouveaux entrants au gouvernement ce soir, Jean-Paul Delevoye, l'homme de la réforme des retraites. Il va porter ce dossier désormais comme haut-commissaire au sein de l'équipe d'Edouard Philippe. Et puis le jeune député macroniste Jean-Baptiste Djebbari qui devient secrétaire d'État au transport. Les premières annonces issues du Grenelle des violences conjugales qui s'est ouvert aujourd'hui. 5 millions d'euros pour créer 1000 nouvelles places d'hébergement. Un audit mené dans les commissariats sur l'accueil des victimes. La possibilité de déposer plainte à l'hôpital. Et des procureurs référents spécialisés sur ces dossiers, des annonces jugées insuffisantes par les associations ce soir. Bercy annonce 5800 suppressions de postes au sein du ministère des Comptes publics. Suppression étalée jusqu'en 2022. L'annonce a été faite au syndicat aujourd'hui, ce qui porte la diminution à 10 000 postes sur l'ensemble du quinquennat. L'ouragan Dorian, rétrogradé en catégorie 2 alors qu'il va longer les côtes de Floride, il faiblit mais continue de provoquer des vents à 175 km/h et des pluies diluviennes. Avec risque de crue, plusieurs millions de personnes ont été évacuées. Le Royaume-Uni dans l'angoisse du Brexit, la livre sterling à son plus bas niveau depuis 3 ans. Ce soir, Boris Johnson a perdu sa majorité absolue au Parlement qui s'apprête à voter un texte pour tenter d'empêcher un Brexit sans accord. Enfin, le début des quarts de finale à l'US Open ce soir avec un duel entre Roger Federer et le bulgare Dimitrov. Stan Wawrinka affronte le russe Medvedev. Demain, ce sera au tour de Gaël Monfils de jouer sa place dans le dernier carré face à l'italien Matteo Berrettini. C'est le 25e mondial.
On a le programme. Merci beaucoup Sébastien. À demain.
À demain.
Profitez d'un temps toujours clément avec Rénoval, Véranda et Abri de Piscine. Rénoval vous présente la météo.
Anissa, quelle couleur pour ce ciel demain, mercredi ?
Alors, il sera partagé. Ciel bleu sur une grande partie de la France, ciel gris sur l'ouest, parce qu'effectivement, une perturbation arrive au nord, sur le Cotentin, la Normandie, la Bretagne. Il pleut demain matin, ce qui est une bonne nouvelle pour nos terres, ce qui est une bonne nouvelle pour nos agriculteurs. Mais ça ne va pas être assez demain puisque le soleil revient l'après-midi. Cette perturbation va se déplacer vers l'est avec à la mi-journée l'arrivée de la pluie cette fois-ci au nord sur le bassin parisien et les Pays de la Loire. Cette pluie sera accompagnée de vent demain avec des rafales allant jusqu'à 60 km/h. Soyez prudents. Et puis toujours de la chaleur demain après-midi sur la moitié sud de la France. Écoutez bien, il fera 33 à Nîmes, 31 à Marseille, 29 à Bordeaux et 24 degrés demain après-midi à Paris.
On prend ces belles températures, on prend aussi la pluie.
Oui, il en faut.
Merci Anissa.
Europe 1.
Votre grand journal du soir se poursuit jusqu'à 20h sur Europe 1. Ça vous fait réagir. Quel est votre avis ? Avec deux questions ce soir, Nathalie Lévy.
À 19h50, la culture au sens large, la télé fait-elle peau neuve en cette rentrée ? Il y a vraiment des choses à ne pas manquer. Et puis d'abord, nos invités qui sont en plateau.
Oui, vous pouvez réagir. N'hésitez pas à venir interpeller nos invités. 39-21, 50 centimes la minute. Vous pouvez également réagir sur Twitter avec le hashtag Europe 1.
Et on parle immobilier. Ils sont là dans ce studio, non sur ce plateau, dans ce studio. Bonsoir Maëlle Bernier.
Bonsoir.
Vous êtes directrice de la communication chez meilleurtaux.com. Laurent Vimon est également avec nous. Bonsoir.
Bonsoir madame.
Bienvenue, vous êtes président de Century 21, premier réseau d'agences immobilières dans le monde. Alors, il faut acheter. Alors moi, excusez-moi, on va commencer par le commencement. Je lis que les prix de l'immobilier ne cessent d'augmenter. Pour autant, les taux baissent, certes. Donc, il faut acheter. C'est le moment.
Oui, enfin, c'est le moment.
Il y a quand même une hésitation.
C'est effectivement, on est dans une croisée aujourd'hui des chemins où les prix de l'immobilier alors, ne cessent d'augmenter à Paris, mais dans beaucoup de villes de France, ça commence à stagner, voire ça stagne carrément, voire ça baisse un petit peu. Et en face de ça, vous avez des taux de crédit immobilier qui n'ont cessé de baisser tout au long de l'année et qui, du coup, redonnent du pouvoir d'achat aux Français et qui permettent de rendre l'achat plus rapidement intéressant par rapport à une location.
C'est ça.
L'étude qu'on a menée, nous, qui est sortie aujourd'hui, c'est justement de dire combien de temps je dois détenir un bien pour que l'achat soit plus rentable que la location. Et aujourd'hui, cette durée moyenne en France, elle est de 1 an et 9 mois. L'année dernière, c'était 2 ans et 9 mois. Ça veut dire que si vous gardez un bien plus de 21 mois, plus d'un an, enfin gros 1 an et 10 mois, bah vous commencez à perdre de l'argent. La location vous coûte beaucoup plus cher.
Avec quand même, vous l'avez dit, hein, des cas s'agissant de Paris.
Des différences, on est sur 8 ans.
Parce que, Laurent Vimon, soyons clairs, à Paris, on dépasse quoi ? On dépasse aujourd'hui les 10 000 euros du mètre carré ?
Oui, on l'a annoncé fin mars.
Voilà.
C'est un
classique
non-événement, puisque 10 500 ou 9 500 euros, ça change un peu les choses, mais c'est plus un point de repère qui n'a pas beaucoup d'intérêt. Ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, les Français naissent avec une brique dans le ventre, qu'acheter son logement, ça fait sens.
C'est ça.
Et que s'il y a un lien entre les taux bas et les prix, il faut le relever. Il est évident que plus les taux sont bas, plus les gens peuvent acheter, plus leur pouvoir d'achat est élevé et plus il y a d'acheteurs solvables. Le problème, c'est qu'en France, il y a une pénurie de logements qui est importante, entre 500 000 et 800 000 logements, et que quand vous avez dans un marché d'offre et de demande plus de gens qui veulent acheter que de gens qui veulent vendre, ça fait monter les prix, ce qui est le cas à Paris, puisqu'à Paris, on construit peu et vous avez en face un nombre d'acheteurs extrêmement important. Je ne connais pas ou je n'ai pas en tête toutes les causes de la hausse des prix, et j'endosse toutes ces causes à bon compte, mais on peut effectivement se réjouir que la hausse des prix soit mesurée en France, c'est 0,9% au premier semestre 2019.
Ah oui.
En revanche, il y a des cas particuliers, Paris intramuros, plus 6%, Bordeaux, Nantes, mais dans tous les cas, les prix sont le résultat de la rencontre entre un acheteur et un vendeur. Personne n'a forcé personne ni à acheter, ni à payer.
Est-ce que c'est une situation, parce que vous avez effectivement livré cette enquête, Maëlle Bernier, est-ce que c'est une situation, je ne vous demande pas de prédire l'avenir, mais les taux bas, ça ne date pas d'hier, ça fait déjà quelques mois, on peut imaginer que ça persiste ?
Alors, je pense que ça va durer. Ça peut même encore baisser encore.
Encore baisser ? C'est-à-dire que là, on est autour de 1%.
Oui, c'est ça. On est autour de 1% sur des durées, en gros, sur le 15-20 ans, en dessous, quelquefois. Il n'est pas du tout exclu que dans les semaines et les mois qui viennent, le 1% sur 25 ans devienne la norme, parce que là, on a des barèmes qui sont à nouveau en baisse en septembre. On sait que la Banque Centrale Européenne, qui est un peu le gendarme, va réinjecter des liquidités, donc de l'argent pas cher dans les mois qui viennent dans la zone euro. Donc ça va bénéficier directement aux banques françaises et du coup, en bout de chaîne, à l'emprunteur en crédit immobilier. N'oublions pas que le crédit immobilier, ça sert aux banques à capter un nouveau client. Elles ne gagnent pas beaucoup d'argent sur le crédit immobilier. Elles gagnent de l'argent parce qu'après, vous allez être dans votre banque, vous allez vivre.
Dans quel cas, véritablement, on a parlé évidemment de Paris, qui est toujours une espèce de cas à part, de Lyon aussi, de Bordeaux, où c'est moins intéressant, mais dans quel cas précisément, si on est un primo-accédant par exemple, ça vaut le coup d'acheter, donc, clairement, aujourd'hui ?
Mais moi, je ne sais pas répondre à ça vaut le coup. Je sais dire qu'il faut acheter quand on a un projet immobilier qu'on a construit et qu'on peut le financer. Je ne suis pas certain que les gens qui achètent un logement l'achètent parce que ça vaut le coup. Ils veulent acheter un logement parce qu'ils font de l'épargne forcée et qu'en étant propriétaires, ils sont à l'abri et ils mettent leur famille à l'abri et qu'ils peuvent faire ce qu'ils ont envie. Ils ont le sentiment en plus qu'ils ont plus de poids par rapport à un banquier en cas d'incident de vie que par rapport à un bailleur. Donc ça vaut le coup, je ne sais pas répondre. Ce qui est certain, c'est que plus personne ne peut dire « je vais habiter Paris sans difficulté ». Le marché parisien est un marché qui a été complètement appuyé par les Parisiens qui revendent pour acheter, avec des plus-values extrêmement importantes. Et donc, ça rend l'accès aux primo-accédants et aux catégories moyennes, employés ouvriers, cadres moyens, extrêmement difficile. On est passé de moins de petits pourcents d'acheteurs employés ouvriers à Paris à 5% en 10 ans.
Donc, effectivement, c'est un cas particulier. On va se retrouver dans un petit instant. Vous allez donner des conseils à nos auditeurs qui nous appellent d'ailleurs nombreux.
Vous écoutez Nathalie Lévy jusqu'à 20h sur Europe 1. Votre grand journal du soir jusqu'à 20h sur Europe 1, Nathalie Lévy, avec le débat du soir consacré à l'immobilier. N'hésitez pas à réagir. 3921 le standard, hashtag Europe 1 sur Twitter.
Et justement, vous réagissez. Merci à vous. Paul, notamment, qui nous appelait au 3921. Bonsoir à vous.
Bonsoir, madame.
Paul, vous êtes où précisément ?
Moi, je suis dans le département de l'Ain.
D'accord.
Je suis un monsieur de 80 ans. Mmh. Et j'ai fait les investissements immobiliers dans les années 70, mmh. à l'époque où les taux d'intérêt étaient très élevés et où l'inflation était elle-même aussi galopante. Donc nous sommes dans une situation complètement différente. J'apprécie beaucoup la prudence de votre invité quand vous lui posez une question de savoir s'il est vraiment impératif mmh. aujourd'hui d'investir dans l'immobilier. Mmh. En fait, en France, il y a trois types d'immobilier. Il y a l'immobilier de Paris, de Lyon, de Bordeaux, des métropoles. Ça, c'est un immobilier. Et puis, vous avez celui de toutes les zones touristiques. Et puis, vous avez le troisième problème immobilier, c'est celui
des zones rurales.
Le trou du cul du monde, pardonnez-moi l'expression.
C'est imagé. Mais c'est-à-dire les zones rurales, les campagnes.
Les endroits où il y a un peu moins d'hôpitaux, un peu moins de transports, mmh. un peu moins de services. Et dans tous ces endroits-là, investir aujourd'hui, même avec des taux négatifs, mmh. fait que lorsque on désire revendre actuellement dans un marché immobilier qui est à la baisse dans mmh. ces régions-là, on n'a aucun bénéfice.
Ah, alors, on vous a écouté, Paul, merci beaucoup. On va entendre la réponse de Maëlle Bernier parce qu'en vous écoutant, elle n'était pas forcément
non,
d'accord.
Alors, en fait, moi, je pense que monsieur oublie une zone. C'est la quatrième. C'est celle de toutes les villes moyennes qui ne sont pas forcément le trou du cul du monde, comme disait monsieur, qui sont des villes comme Reims, comme Lille, qui est une grande ville. Comme,
les villes intermédiaires.
Les villes intermédiaires mmh. qui sont reliées avec le TGV, qui sont Rennes, où vous avez un marché qui est des villes moyennes comme Le Mans, enfin des villes comme ça, Reims encore une fois, qui sont des villes moyennes où le marché est assez sain, où les prix n'ont pas explosé, où la demande rencontre l'offre et où on n'est pas ravitaillé forcément par les cormorans. Mais voilà. Donc il y a quatre zones. Il y a effectivement les zones rurales qui souffrent beaucoup. Il y a Paris, Bordeaux et Lyon. Et puis il y a le côté résidence secondaire, enfin bord de mer et puis on va dire station des sports d'hiver, oui. enfin de sports d'hiver aussi. Oui. Mais vraiment, n'oublions pas, et c'est pas Laurent Vimon qui va me contredire, les villes moyennes où encore une fois, le marché est sain.
Les villes moyennes comme Mulhouse, comme Perpignan, on peut les citer aussi.
Montpellier, même Montpellier, des grandes villes.
Enfin, Montpellier, oui, ouais, bien sûr.
Mais le marché français, c'est un marché en peau de léopard. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une zone active, une zone qui n'est pas active. Vous avez effectivement des grandes métropoles et très clairement, les Français préfèrent acheter près de leur emploi parce qu'ils ne veulent plus supporter les temps de transport en commun et puis les coûts liés entre autres aux frais de carburant et qu'il y a un vrai phénomène d'attirance de ces grands centres. Et puis après, en fonction des lignes ferroviaires, des hôpitaux, enfin, de tous les services publics, vous avez des zones plus ou moins favorisées. Mais on a une agence à Maubeuge, on trouve des logements à 50 000 euros à Maubeuge, avec un niveau de rentabilité extrêmement élevé. En revanche, quand vous revendez, il n'y a pas
c'est
de grosse plus-value.
C'est ce que disait Paul.
Mais
c'est ce que dit Paul,
vous êtes chez vous d'ailleurs. La rentabilité, elle est à 7%. Parce que entre le loyer et le crédit, il y a très peu d'écart. Donc, être propriétaire à Maubeuge, investisseur, ce n'est pas un mauvais calcul. Vous avez pour 50 000 euros un logement, 50 000 euros, c'est environ 250 euros de crédit par mois.
Bon, alors, on vous a entendu, Laurent Vimon, sur. J'ai posé la question bêtement, de manière très candide, est-ce que ça vaut le coup d'acheter aujourd'hui ? Maëlle Bernier, qu'est-ce que vous répondez, vous, à cette question ?
Je suis d'accord avec Laurent, il faut un projet, ça, c'est sûr.
Bien entendu,
évidemment. Mais la question, c'est de se dire, est-ce que je continue de gaspiller de l'argent par les fenêtres tous les mois ?
Quand on est locataire.
D'accord. Où est-ce que je me dis, effectivement, je vais payer une banque à un taux autour de 1%, rester propriétaire, devenir propriétaire. Alors évidemment, si on sait qu'on déménage dans 6 mois, aucun intérêt. Mais quand on a un projet de vie, nul ne peut dire où il sera dans 3 ans, ça c'est certain. Mais un projet de vie, un couple, des enfants, on peut se dire, je préfère être chez moi pour la même somme ou presque qu'un loyer.
Il y a une approche
Et ce sera terminé.
D'investissement importante. L'immobilier permet de se faire de l'épargne forcée.
Sûr, c'est ça.
Et grâce au crédit que vous contracté, vous achetez un logement que vous mettez en location et une partie du crédit est remboursée par le locataire avec un avantage, là où il y a quelques inquiétudes sur les retraites, c'est que quand la retraite arrive, vous avez un capital et puis un petit loyer qui tombe tous les mois.
Bon, en tout cas, merci beaucoup de nous avoir éclairé ce soir sur ces taux. Donc, en baisse, on l'a dit, mais un marché compliqué dans certaines grandes villes, dans certaines grandes agglomérations, donc pas forcément de biens à disposition. Donc, ça dépend de votre projet de vie. Merci à tous les deux.
Merci.
Maëlle Bernier, Laurent Vimon.
Europe 1. La suite de votre grand journal du soir dans un instant, Nathalie Lévy.
Et si on prenait notre zapette pour regarder ce qu'il y a à la télé en cette rentrée ? Des bonnes choses ? Des moins bonnes ? On va tout savoir avec Philippe Vandel, le vrai Renaud Revel aussi. Tout de suite.
Jusqu'à 20h sur Europe 1. 19h50 sur Europe 1, Nathalie Lévy, votre grand journal du soir. C'est aussi la culture au sens large et ça commence tous les soirs avec votre coup de cœur musical. Qu'est-ce que vous avez choisi ?
Une découverte en fait, plus qu'un coup de cœur, hein, chaque soir je crois. N'est-ce pas Vincent, le nouveau titre de Maître Gims ? Ça s'appelle Reste, c'est en duo avec la légende anglaise Sting. Oui, le vrai Police, le groupe, le leader du groupe Police, on connaît quand même. Si jamais je m'en vais. C'est quand même un énorme coup hein, pour Maître Gims en duo avec Sting. Waouh. Ça s'appelle Reste, nouveau single extrait de l'album Ceinture Noire, vendu à plus de 800 000 exemplaires. Et une date de concert, le 28 septembre prochain. Vous avez vos places, c'est au Stade de France.
Ah oui, au Stade de France, carrément. C'était le coup de cœur musical de Nathalie Lévy. Chaque soir, désormais, la culture au sens large. 19h51, notre deuxième question du soir, elle concerne la télé. Quel est votre avis ? Dites-le nous. 39, 21, 50 centimes la minute et Twitter avec le hashtag Europe 1, Nathalie.
Et oui, ce sont des spécialistes de la petite lucarne, entre autres, hein, parce qu'ils connaissent tous les sujets. Philippe Vandel est avec moi ce soir dans ce studio.
Bonsoir.
Salut Philippe.
Salut, merci de ce compliment que je ne mérite pas, merci.
Ça s'appelle Culture Média, c'est votre émission du lundi au vendredi de 9h à 11h sur Europe 1. On vous fait faire des heures sup ce soir et on accueille Renaud Revel. On est ravis. Bonsoir Renaud. Bienvenue, vous êtes journaliste média au journal du dimanche. Merci à tous les deux. Alors moi j'ai ma petite zapette là, enfin ma télécommande dans une main et je me dis que cette rentrée télé, elle vaut le coup. Il va se passer des choses, un petit topo global. Renaud Revel.
Écoutez, moi je suis assez déçu de ce que j'ai pu voir jusqu'ici.
Oula, ça commence bien.
Peu de changements par rapport à la saison passée. Moins d'argent dans les chaînes, des plans d'économie à tous les étages. Et finalement, une seule nouveauté, mais c'est une tendance très lourde depuis quelques années, c'est la fiction française. Les chaînes TF1, M6, Canal produisent de plus en plus de téléfilms de fiction française. Il y a beaucoup de choses. Il y a 25 à 30 téléfilms qui vont voir le jour d'ici la fin de l'année. Et pour une chose simple, c'est que ça marche. J'ai vu un chiffre qui m'a laissé quand même, qui est spectaculaire. 37 millions de Français ont vu au moins une fiction sur les antennes de France Télévisions l'an passé. Oui. Et on a consommé 286 millions de vidéos téléfilms. Donc, c'est un genre qui marche et les chaînes l'ont parfaitement compris et elles produisent.
Ouais, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on regarde plus facilement de la fiction, du divertissement ou du talk show ?
Il y a aussi qu'une fiction française peut être vendue à l'étranger, alors qu'un talk show franco-français, ça passe pas la rampe aux États-Unis. Alors qu'on peut vendre Le Capitaine Marlowe ou des choses comme ça, des fictions Versailles par Canal+. Et du point de vue des émissions, je suis d'accord avec mon camarade Renaud, qu'on entendra demain dans Culture Média, il n'y a pas grand-chose de nouveau.
Mais attendez, ôtez-moi d'un doute. Il s'est passé énormément de choses ces 2-3 dernières années dans La Petite Lucarne. Ouais. William Lémergie qui a changé de chaîne, un pilier de France Télévisions. Patrick Sébastien qui a été écarté de France Télévisions. Non mais voilà, il y a beaucoup de visages qui ont disparu, qui ont changé, qui ont été recalés pour certains. Donc peut-être que là on est un peu dans l'attentisme,
Il y a Ardisson qui disparaît, si on reprend les grands disparus, il y a Ardisson qui disparaît, il y a Hugo Clément qui était sur Combini, qui était un site autrefois, qui était dans l'émission Quotidien, qui arrive sur France Télévisions avec 4 grands docs dans l'année sur l'environnement. Hanouna prend de plus en plus de place, et puisqu'on parlait de Canal+, il tente un truc pour résister aux 3 gros talk shows de l'Access qui sont Anne-Elisabeth Lemoine sur la 5, Quotidien, dans Yann Barthès sur TMC et Hanouna C8, c'est Clic. Mené par Mouloud Achour, et c'est le pari de Canal+, qui veut en gros faire le coup que Quotidien a fait à Hanouna, en le ringardisant un peu, en disant nous on s'intéresse aux minorités, et là Mouloud Achour c'est la minorité de la minorité.
Ouais, sauf que Clic, pardon, mais c'est pas du neuf, enfin on fait du neuf avec du vieux,
c'est
parce
non
que
seulement
ça
pas
existait.
Du neuf, c'était une plus, oui, bien sûr, mais avec 200 000 téléspectateurs hier soir, c'est pas du neuf, et ça fait pas une très grosse audience, et on voit quand même que les grands talks TPMP ou Quotidien restent à peu près dans les mêmes étiages, c'est-à-dire 1 million, 2 millions, 3.
On reproduit
à peu près les mêmes concepts et les mêmes programmes.
Je ne suis pas d'accord avec Renaud. Les audiences d'hier n'ont pas été très bonnes, mais il fait très beau. Les grosses audiences de l'Access, c'est quand ils se mettent à faire nuit à 5h.
Quand même.
Vraiment,
il y a les enfants à la maison, il faut les...
Les audiences d'accord. de la télé font fonction du jour ou de la nuit.
D'accord. Il y a pas mal de changements sur les matins de France 2, on va y revenir dans un instant, mais sur les soirées week-end de France 2, vous voyez très bien de quoi je parle, et on va d'ailleurs écouter Edith. Bonsoir Edith, bienvenue.
Oui, bonsoir.
Vous regardez, vous êtes une fidèle dont n'est pas couché ?
Oui, j'étais, on va dire, parce que de plus en plus, moi, ça s'émousse ma motivation, parce que voilà, je trouve que Laurent, il a trop tendance à être très complaisant, et ça, moi, j'avoue que ça commence à me décourager. Et puis, c'est de plus en plus tard, c'est dommage. Cela dit, il a toujours des gens de grande qualité. Mais moi, je vais, par exemple, aussi, je suis très, très éclectique. Hein, je vais sur tout. Hein, je vais sur C'est dans l'air, c'est à vous, quotidien, TPMP parce que j'ai quelqu'un qui est assez adepte, donc ben, des fois je jette un œil. Mais on a besoin de choses, oui, de qualité qui nous informent avec objectivité.
En tout cas, vous êtes déçus par On n'est pas couché. 870 000 téléspectateurs samedi soir pour une émission de rentrée dans un nouveau... Enfin, rafraîchi. C'est là, pas c'est... un nouveau format, mais c'est rafraîchi.
Là, c'est peu. Pour le coup, c'est peu. Alors, ce qui est très étonnant, c'est que c'était l'émission avec Yann Moix, et l'émission qui a fait scandale. Et Laurent Ruquier avait dit, on arrête le buzz, le clash. On arrête avec les chroniqueurs qui tirent sur les invités à la mitraillette. On va être bienveillant. Le mot, c'était positif. Et là, ça n'a pas été le cas et ça n'a pas marché.
Et ça n'a pas marché. Renaud Revel, on est à 14 saisons, je crois, hein, pour On n'est pas couché. C'est peut-être la saison de trop.
Oui, c'est un format qui s'érode, forcément. C'est qu'il s'use, hein. Ça fait comme 4 ans, c'était très très long. Et c'est vrai que là-dessus, Laurent Ruquier n'a pas su se renouveler. Et je sais qu'à France Télévisions, ils en sont un peu inquiets. L'épisode Yann Moix, ça a laissé des traces. Mmh. Ils vont sans doute être obligés de repenser ce programme, en tout cas d'ici la saison prochaine, bien évidemment.
Ouais. On voit bien qu'il ne se passe pas grand-chose. Vous l'avez dit, c'est la fiction hein, qui finalement canalise les moyens, etc. Il se passe quoi ? Il se passe que... Aujourd'hui, toutes les chaînes savent pertinemment que tous les regards sont tournés vers les streamers.
Oui, bien sûr. Quand on prend les chiffres, Netflix, c'est 3,5 millions d'abonnés. Ils seront à 4 millions à la fin de l'année. En novembre prochain, va arriver en France et en Europe Disney. Et Disney, qui quand même, c'est le catalogue de Fox, Miramax, Pixar, à 6 euros par mois contre 9 Netflix. Il y a une lame de fond qui se profile. Ils le savent en France depuis très longtemps. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, on produit la fiction française à G continue, parce qu'ils ont... effectivement en face d'eux, des mastodontes qui vont les...
Non pas, terrasser
ou pas les terrasser à terme, effectivement c'est un risque majeur et ça ils l'ont parfaitement compris depuis très longtemps.
Et
Disney, Disney c'est aussi Marvel, c'est-à-dire les super-héros. Je vais donner un chiffre, France Télévisions, toutes les chaînes françaises, France Télé, TF1, le groupe Canal, M6 ont lancé Salto, 50 millions de budget pour se regrouper, mais juste l'investissement de Netflix en une saison, on n'est pas en millions, c'est 16 milliards. Disney, c'est 20 milliards de dollars. Bah... Amazon, pareil. Apple, pareil. Et nous, on est que 50 millions.
C'est le pot
millions.
De fer contre le pot de fer.
Ah bah, évidemment.
Alors, pour compléter le propos de mon collègue...
Philippe m'appelle.
Nexus a dépensé 1 milliard de dollars avec 15 fictions. Bah, et 1 milliard quand les chaînes françaises, au total, ont investi l'an passé 250 à 300 millions d'euros.
Bon, bah écoutez, le match est plié. Non, c'est fini, Philippe.
Ah, c'est fini. Je voulais juste dire qu'on pourra avoir Netflix sur Canal+, et ça, c'est une grande nouvelle.
Oui, exactement, parce qu'il va y avoir une espèce d'association.
Exactement.
Merci à tous les deux, Renaud Revel. On vous retrouve dans le journal du dimanche. Philippe Vandel, on vous retrouve demain matin à 9h. Et Émilie Mazoyer, on vous retrouve tout de suite.
Salut Nathalie. Salut, ce Emily. Soir, on reçoit un des groupes de rock anglais qui nous a fait rêver au milieu des années 2000 et qui continue leur route. Ça, c'est chouette. Ah. C'est Razorlight.
Ah oui.
Ah, c'est bien. Oui. Johnny Borrell, le leader. Bah, chacun ses goûts, Philippe.
Moi, j'adore. C'était bon, ça.
Donc, il sera là tout à l'heure en interview, le leader du groupe Johnny Borrell, et aussi en live dans Musique.
Alors, on reste branché sur Europe 1, évidemment. Merci à tous.
On se retrouve demain, Nathalie Lévy, à 18h, pour un nouveau grand journal du soir. À demain, très sur belle Europe 1. Soirée.